god, I've lost my sanity. If I never met you, it would have been the best day of my life. Then I shouldn't say this to your face. You're always on my mind. Don't you forget about me. If only we could have more time, I wouldn't have to hate you. God, what more is left to say? If I never met you, it would have been the best day of my life. And I shouldn't say this to your face. You're always on my mind. Don't you forget about me. If only we could have more time, I wouldn't have to hate you. Oh no, not again. Thinking back on the words that I said. Oh no, not again. Can't get you out of my mind. You. It would have been the best day of my life. If I never met you, would have been the best day. If I never met you, would have been the best day of my life. Then I shouldn't say this to your face. You're always on my mind. To hate you.
Pour un matin. Eh ben dis donc. Peut-être que c'est dans le morceau en fait. Alors mon anglais est un peu rouillé, mais j'ai cru comprendre que ce jeune homme chantait un petit peu à l'instant le fait que s'il n'avait pas rencontré, je sais pas s'il parle d'un garçon ou d'une fille, You serait été le meilleur jour de sa vie, c'est ça. Donc manifestement ça s'est pas très très bien passé. J'espère que ça va mieux se passer pour nous. Vous êtes dans la matinée Étienne et je suis très heureux de vous accueillir. En ce mercredi, comme le temps passe vite déjà, message d'Elvis Jabbar dans le chat, je t'ai vu. Ça fait quelques émissions que je te suis. J'ai vraiment adoré l'émission de vendredi. Ma nouvelle émission hebdomadaire du vendredi, l'hebdo Étienne. On revient, je fais ma pub, j'en profite, avec trois invités chaque semaine, des journalistes, pas seulement, des passionnés d'actu. Merci Auruc pour ce premier sub de la journée, 13e mois, merci à toi. Sur l'actualité de la semaine, voilà, on en est déjà au numéro 4, vendredi. Ce sera le numéro 4, voilà. Et Elvis me disait, donc Elvis n'est pas mort, la preuve, il est là, à quand une émission spéciale avec vos collègues de France Info ? Alors, j'aime bien mes collègues de France Info, je les invite régulièrement. Vous avez déjà eu David Delos, mon spécialiste économie du matin, dans cette émission. Et il n'est pas impossible que vendredi, vous ayez encore quelqu'un de France Info. Qui ? Suspense. Puis on a aussi Julien Pain aussi, qui ne travaille pas avec moi dans la matinale, mais qui est le spécialiste de la lutte contre les fake news. Du debunk à France Info, émission vrai ou fake, super boulot, et je pense qu'il reviendra Julien parce que vous l'avez beaucoup apprécié. Donc je leak un peu, vendredi, quelqu'un de France Info, quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Voilà, trois journalistes, deux filles, un garçon. Je pense que je vous annonce ça aujourd'hui. En fait, j'ai pas pu encore parce qu'il me manque une photo. Vous savez que je fais mes petits visuels à la maison tout seul. Tout ça est fait maison, tout ça est artisanal bien sûr. Et il me manque une photo, une jolie photo de mon troisième invité. Bonjour à tous, bonjour Samuel. Thomas Soto a été un peu dur ce matin en disant que tu faisais du gras. Thomas Soto, mon ami, présentateur de Télématin, on se passe le relais tous les matins puisqu'on fait une première demi-heure sur France 2 avec mon équipe pour une espèce d'apéritif à Télématin. On passe la main à l'ami Thomas, parfois c'est Thomas, parfois c'est Julia Vignali. Et Thomas ce matin m'a demandé où j'en étais du sport. Je lui ai dit que, à cause de vous d'ailleurs, comme je me consacrais un peu plus au stream et à Twitch qu'au sport, je faisais un peu du gras en ce moment. Voilà. Mais j'assume. Le saut, ah c'est gentil, je ne connaissais pas, merci Driver, Comment ça, les merci de ton retour, ça faisait un moment que je pouvais plus suivre tes lives. Eh bien, bon retour avec Anous et Cole. J'ai fait un petit tweet à base de café à l'instant pour annoncer ce stream il y a quelques secondes. Je pense que vous l'avez pas vu parce que en fait j'ai fait le tweet pendant que le générique était déjà lancé. Hop là, vous connaissez mon addiction à la caféine et aussi à l'actualité, donc ça donne ça quand on mélange mes deux passions. Bim! J'apporte les journaux, tu viens avec ton café. Magnifique. Inception. Voilà. C'est vu de comme ça. Voilà. Ah ben, tiens, du coup, vous avez une petite idée de ce qu'on va lire là. Je sais pas si on peut deviner. Déjà, on voit qu'on a le canard enchaîné. Ouais, c'est mercredi. Mercredi, c'est pas que le jour des enfants. C'est pas que le jour du ciné. Et des sorties, c'est le jour du canard enchaîné aussi. Je l'ai lu dans le taxi sur le chemin du retour. J'étais un peu à la bourre. Il y a une actu dans le canard. Je sais pas si on parlera, dont on a parlé un peu ce matin sur France Info. Voilà pour le petit tweet. 50% café, 50% info. Lost in Translation nous regarde depuis le Japon, en train de faire les boutiques de sacs à dos à Tokyo. Le The Event AZ Airplay, on en a parlé tout le week-end, on en a parlé lundi matin sur cette chaîne, on en a parlé mardi matin sur cette chaîne. Donc je ne te redirai pas ce que j'ai pensé de cette très bonne et très belle édition du The Event. En revanche, c'était en replay hier et avant-hier, parce que je ne veux pas saouler ceux qui étaient déjà là hier et avant-hier avec le The Event. Sarah Molite, le mien il est dégueulasse ce matin. Mais enfin, le café c'est sacré. Cinémade, c'est adorable. Cinémade me dit, je suis en dernière année de master journalisme. Bravo à toi, c'est un très beau métier. Et je réalise mon mémoire de fin d'études sur Twitch. Les journalistes, possible d'en discuter. Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, là comme ça j'ai envie de te dire oui, Cinémade, mais... En fait, des propals comme ça, j'en ai presque tous les jours. Ma boîte mail, ma boîte de DM sur Twitter et sur Twitch est un peu surchargée et je m'excuse de ne pas répondre à tous vos messages. Il se trouve que j'ai les yeux un peu plus grands que le ventre au niveau du taf. Et vous savez que ma vie est parfois un peu alors, hyper sympa, mais un peu chargée entre les matinales de France Info, le réveil qui sonne à 2h du matin tous les jours, le stream dans la foulée, l'hebdo Étienne que j'ai lancé là, numéro 4 vendredi. Donc, la programmation, caler les invités, trouver trois invités à chaque émission, préparer les sujets, faire l'installation technique avec Joe, tout ça, bon, c'est beaucoup de travail. Plus les émissions un peu exceptionnelles, je vous en prépare des rencontres Étienne, l'exposition Étienne, on va aller dans un musée bientôt. Et en fait, j'ai plein de sollicitations pour les ONG, pour les associations caritatives, des associations que j'adore. En plus, plein de gens qui, comme toi, m'envoient des super messages auxquels j'ai envie de répondre. En vrai, dans ma vie d'aujourd'hui, je suis à l'os déjà sur le sommeil, au minimum, en termes d'organisation. Ça passe ric-rac, un peu limite, en tapant un peu dans le sommeil. Et en fait, j'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations. Donc, ciné, je suis désolé, mais c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette sollicitation, aussi intéressante soit-elle. Je vous lis, et on démarre. Très envie de vous lire les journaux ce matin. Ouais, mais Hugo a raison. Hugo écrit le nombre de gens qui font des mémoires liées à Twitch. Maintenant, c'est fou. C'est pas une vue de l'esprit. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de gens qui, dans le cadre de leurs études, de journalisme ou autre, de droit ou de sciences humaines de manière générale, s'intéressent à Twitch et très gentiment, parce qu'ils me regardent parfois, ont envie d'échanger avec moi. Et moi aussi, j'ai envie d'échanger avec eux parce que de l'échange, c'est dans deux directions. C'est-à-dire que, a priori, je viens expliquer des trucs, mais en vrai, je reçois autant d'infos de la personne qui me pose des questions et qui s'intéresse à mon travail que je n'en donne en fait sur son regard, les questions que cette personne se pose sur Twitch, sur les nouveaux écrans, sur la nouvelle façon de consommer de l'information. Donc en vrai, ça m'intéresse vachement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un vrai problème d'organisation de temps quoi. Voilà. À un moment, il faudra que je fasse des choix. Hein. Ça fait 5-6 ans que je suis en matinale dans des horaires un peu particuliers. Mais bon, voilà. Pour l'instant. Ça tient. Voilà. Voilà. Et merci de vous soucier de ma santé, c'est super gentil. Bon, la matinée Étienne, qu'est-ce qu'on fait ici? On lit les journaux, mais on les lit ensemble. Pourquoi les journaux? Parce que j'ai décrété, ça n'engage que moi, que c'était la meilleure source d'information qui soit. On a des bons journaux, des journaux de qualité en France. Je parle de la presse écrite. Je suis un journaliste de l'audiovisuel public qui a fait beaucoup de radio, beaucoup de télé essentiellement, depuis plus d'un quart de siècle maintenant, et puis aujourd'hui qui s'intéresse un petit peu aux nouveaux écrans, notamment à Twitch, on va dire même surtout à Twitch. Mais le paradoxe, c'est que je kiffe la presse écrite. Une presse qui, je vous le dis souvent, c'est ma marotte, qui fait pause, qui prend le temps. Pas une presse qui est dans une course à la vitesse, une course à l'information, hein, donner l'info avant le concurrent, ce qu'on voit beaucoup à la télé, sur Internet ou entre les chaînes info, être le plus rapide. Être le plus rapide, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun intérêt. Donner l'info 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, mais même une heure avant les autres, ça n'a aucun intérêt en vrai, pour la compréhension du monde dans lequel on est. La presse écrite, évidemment, n'est pas là-dedans, sauf les sites Internet de ces mêmes journaux, voilà, mais moi je lis plutôt la presse papier. C'est une presse qui fait pause tous les 24 heures, il y a un journal qui sort et un journal qui dit bon, dans l'actu de ces dernières 24 heures, voilà ce qui nous a intéressé et voilà ce qu'on peut en dire de façon plus ou moins intelligente. Voilà. Et comme les journaux sont divers et comme ils ont des regards différents, des grilles de lecture différentes, des valeurs différentes, des sensibilités différentes, voilà, eh bien ça nous propose différents regards sur une même actualité et ça nourrit notre réflexion pour que nous-mêmes puissions nous faire en tant que citoyens plus ou moins éclairés notre avis sur toutes ces questions. Et je pense qu'être un citoyen éclairé, c'est important. Voilà, un citoyen éclairé, quelque part, c'est aussi un citoyen informé. Donc la presse écrite, c'est en trois temps. Un petit sommaire d'abord en musique, c'est-à-dire je vous envoie un petit morceau de musique, bien rock en général, avec des guitares et de la batterie qui font mal aux oreilles. Et je me tais et je vous montre les unes, comme ça vous avez l'essentiel de l'actu en 3 minutes. Après, je développe un peu plus, sommaire à en développer en 15 minutes, on va dire, 15-20 minutes. Comme ça, ceux qui n'ont pas 3 heures à passer avec nous, puisque le stream ici en général c'est 3 heures, vous avez l'essentiel de l'actu, voilà. Vous avez les choses importantes qui se passent et puis les journaux qui en parlent, ce qui vous permet éventuellement vous d'aller éventuellement pourquoi pas télécharger ou acheter un de ces journaux si un des sujets vous intéresse. Et puis après on prend le temps de lire tous ces articles ensemble, on essaye de comprendre, on s'éclaire mutuellement, je vous lis des trucs, je vous lis les journaux, je vous donne des infos, parfois j'ai même mon avis en vous signalant bien que ça n'est que mon avis et qu'il ne vaut que ça, et vous me donnez vos avis sur les mêmes sujets et des infos aussi. On appelle ça l'info augmentée ici, enfin, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Vous êtes plein de spécialistes dans le chat de telle ou telle question. Voilà. Dans le chat, il y a des étudiants, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a des gens qui travaillent en usine, il y a des DJ, il y a des artistes, voilà. Et il y a des passionnés de sport, etc. etc. Il y a des personnes en situation de handicap, quand on parle de handicap, et des gens qui vivent au quotidien les choses dont on parle dans l'actualité et qui viennent nous éclairer, parfois avec une extrême grande précision sur l'actualité. C'est là où Twitch est un outil super intéressant, parce qu'évidemment, il y a la communauté, l'échange, enfin, ça c'est super cool de se retrouver quasiment tous les jours ici, mais aussi le fait qu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, eh bien, on est forcément plus intelligent et on sait plus de choses que tout seul et on s'éclaire mutuellement de façon un peu cool. Donc, c'est ce qu'on fait ici, voilà. Alors chacun me donne sa spécialité. Ma spécialité, c'est le bodyboard, me dit Piquetac. On en parlera forcément un jour. Il y a des architectes, mais c'est mignon. Il y a des topographes en archéologie. Il y a des fonctionnaires. J'ai pas cité tout le monde, du coup, on m'engueule. Ok, c'est cool. Il y a des fils de, me dit-on. Ah bon, Nico Manga, tu as un fils de ok, il y a des acteurs porno. Ok, j'avais pas pensé à ça. C'est mignon. C'est mignon. Oh, Grishka, tu m'as donné envie d'acheter le journal. Tu es passionnant. Non, c'est les journaux qui sont passionnants. C'est pour ça que tu as eu envie de les acheter. C'est cool. Chercheur en biologie, traitement de l'eau usée, doctorant en physico-chimie de la matière molle. C'est quoi la matière molle? Du coup, j'hésite. C'est une vanne ou c'est un vrai truc? La matière molle. Le journaliste, il vérifie toujours. Si c'est une vanne, tant mieux. Elle est bonne. Et puis c'est un vrai truc, je vais encore apprendre quelque chose. Voilà. T'es jamais ridicule à vérifier un truc, en fait. Au pire, tu rigoles. Et au mieux, t'apprends un truc. Ah ouais, c'est un vrai truc. Matière molle. Alors, matière molle, état de la matière ou des matériaux connaissant une réponse forte pour un très faible signal de commande. Ah oui, c'est ça. Ouais, je m'en rappelle. Non, pas du tout. Par exemple, les cristaux liquides. Ah ok, ça je connais. Je me rappelle de mes premiers jeux vidéo à cristaux liquides. Des molécules présentes dans une file pellicule de l'écran sont orientées par application d'une très faible tension électrique. Ah, mais en fait, je connais. Ok, en fait, on était tous des spécialistes en matière molle sans le savoir. Comme l'autre qui faisait de la prose sans le savoir. Ah, c'est cool. Non. Ok. Il y a des thésards. Merci beaucoup, du coup, Daruxan. Et je suis très impressionné que tu sois doctorant en physico-chimie de la matière molle. Très, très. Il y a des spécialistes de chimie analytique. Il y a des développeurs. Il y a des étudiantes en droit notarial. Il y a des fans de, il y a des fans de Malo, ingénieurs dans le nucléaire. Vous voyez, ils sont là les spécialistes. C'est pour ça que du coup, on arrive à une info augmentée. Directeur d'école, salut Alexei. Level designer chez Ubisoft, oh là 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 là. Des étudiants veto, des psychologues du travail, ergonomes, pharmaciens en industrie. Maréchal Ferrand de vrai, Zarak, c'est vrai ou pas? C'est cool. Technicien en microtechnique, étudiant en grande école d'ingénieurs, fabricante de livres, c'est un des plus beaux métiers du monde ça. Étudiant ingénieur, professeur des écoles, trop bien, ça aussi c'est beau. Moi, ma spécialité, me dit Lost in Translation, qui nous regarde depuis le Japon, c'est le quiet quitting. La démission silencieuse, on en parlait hier. Guitariste de rock, Saturax TV, avec l'oreille absolue, comme mon beau-frère. Mon beau-frère, je suis très admiratif de lui, il est ingénieur dans le nucléaire. Hein. Il rend heureuse ma petite sœur, donc du coup, il est cool. Et il est ingénieur en nucléaire et guitariste de rock. Et il a l'oreille absolue. Genre, il écoute un morceau, il prend sa guitare, une de ses guitares, il écoute un morceau, puis il trifouille un peu ses cordes là. Et il joue le truc et là je fais what? Ok, d'accord. C'est là où j'ai décidé d'apprendre la guitare en le voyant faire. Ok, bon, il y a plein de spécialistes. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Jacou El Croquant, c'est pas du pseudo ça? Merci pour le 6e mois d'abonnement. Grishka joue. C'est pas Grishka des frères Bogdanov, parce que c'est a priori c'est plus possible. Ou alors il y a eu comeback. Merci pour les beats. Doudou Ball, ça c'est du pseudo. Merci pour le 12e mois. À quand le Sam Event? Me demande Doudou Ball, c'est quoi le Sam Event? 52 heures de stream, QPUC, course, journaux, champs. Ouais. Je veux me tuer en fait. Vous voulez me tuer, c'est ça. Hein, c'est tout. On y va? Ah, tous les spécialistes, je vois des infirmiers, des infirmières. Ah, oh, formidable. Ah, bravo, je vois les gens qui bossent dans la protection des majeurs. Maître des écoles, étudiante en école de comédie musicale. Trop bien. Je vois Ronan Guenoux, président de la République. C'est faux, fake news, info chat, pourri. Le président ne s'appelle pas Ronan, il s'appelle Emmanuel. Ouais. Oh, quelqu'un connaît Saturax? Guts me dit que Saturax, c'est avec Saturax qu'on parlait de la matière molle, je sais plus. Saturax, il a une chaîne YouTube, manifestement. Oh, oh, oh! Vous êtes super fort. Mummy Arty, ça aussi c'est un joli pseudo. Merci pour le 12e mois. Allez, c'est parti pour un petit sommaire en musique. C'est-à-dire que je me tais, je ferme un peu ma bouche là qui dit plein de mots. Je vous montre les unes des journaux en musique. Comme ça, vous avez l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Et puis après, on développe un petit peu ça dans un sommaire un petit peu plus développé. Qu'est-ce que je vous mets comme musique? D'abord, on va allumer la caméra zénitale avec un Z. Hop, elle marche. Oh, c'est beau. J'adore cette vue. J'ai un peu modifié mon setup en fait, c'est un peu différent. Voilà. Vous êtes prêts? On se met la musique. Il est trop grand le canard enchaîné. Hey, faites un format plus petit hein, pour les streamers, s'il vous plaît, messieurs du canard. Allez, un peu de musique. Ici, c'est rock. Let's go. Yeah. Voilà, ah, c'est court, c'est bref, c'est très. Je vais faire du. Tiens, je vais faire du TikTok, moi. Vous savez ce que je. Hey! Hey! Mais ça y est! Mais je vais me lancer sur TikTok! Le truc là que je viens de faire là! La revue de presse en musique là! Vas-y! Hey! Il y a Totony qui. Oh non! Non, pas TikTok, pitié! Attends, vous croyez pas que ça peut partir sur TikTok direct ça? Tous les matins, bim! Là. Ah, il n'y a pas assez de crop top, me dit Flinger Morning. Dis donc, espèce de boomer! Il n'y a pas que du crop top sur TikTok, c'est pas vrai? Pas con, bonne idée, de ouf, nice. Si, pas toi Samuel, me dit Random. Attends, Jean Massier, l'excellent Jean Massier, il est sur TikTok, alors hein, si Jean Massier est sur TikTok. Clornas attendait ce moment depuis des siècles. Merci d'avoir enfin réalisé que tu peux en faire une séquence pour réseaux sociaux. Oh ah, c'est cool ça. Faut la faire encore plus court. Ah ouais. Il me faut moins de vêtements. Il commence donc à sombrer, me dit Yoshiro Bibrunet. Mm-hmm. En vrai, plutôt bonne idée, ça peut marcher si c'est régulier et court. Ah oui, Sadin Live dit du travail, encore du travail. Ah ouais. Non, en fait, il suffit que je coupe. Parce que comme je finis mon stream à midi 13h, ce serait trop tard après. L'idée est bonne, mais pas sûr que du monde regarde sur TikTok. Ah, il y a Tidus en fait qui me dit en fait, l'idée est bonne. Mais, en fait, ton idée n'est pas bonne. Voilà. on va creuser cette idée, ou pas. Ok, maintenant, on va développer un petit peu tout ce que je vous ai montré. C'est le deuxième sommaire, c'est le sommaire un petit peu développé. Alors, c'est pas la peine de partir en grand débat sur tous les titres que je vais vous montrer. C'est pas maintenant qu'on va creuser, lire les journaux, réfléchir, se frotter le cerveau mutuellement. C'est beau! J'ai un prof à l'école qui disait ça, c'est un prof de philo. Qui disait qu'il fallait se frotter les cerveaux les uns les autres. Voilà, je trouvais ça bien, pas mal comme image. Donc on va pas se frotter les cerveaux tout à l'heure. Tout de suite, je vais vous montrer d'abord les journaux dont on parle ce matin. Voilà, c'est un sommaire un petit peu plus développé en 15-20 minutes pour avoir l'essentiel de l'actu. Oui, oui, frotte-moi le cerveau, dit Tifoul, espèce de petit coquin. Mathéus 9, merci pour le 11e mois d'abonnement. Arnaud, merci pour le 13e mois, ça claque. Migoliath, merci pour le 3e mois. Et c'est parti. Donc Canard Enchaîné, c'est mercredi. Le mercredi, c'est cinéma, c'est sortie ciné, c'est les enfants. Alors il y a un gros titre et des petits dessins sympas sur en une. Vous avez le fait que bon, c'est Alix Bouyaguet sur France Info qui nous expliquait ça très bien ce matin. Voilà, le président Macron peine à trouver le rythme, le cap en ce début de deuxième quinquennat. Là, on a l'impression qu'il a un petit peu les crises se succèdent, la guerre en Ukraine. La fin de la crise du Covid et puis la crise du pouvoir d'achat, la crise de l'énergie aujourd'hui et quel est le cap, quelles sont les grandes réformes qui, voilà, une espèce de faux plat, une espèce de temps mort, une espèce de truc mou en début de quinquennat, voilà, tous les observateurs s'accordent à dire à peu près la même chose et paf paf paf, ça y est, ça accélère, on y est. Coup sur coup, on nous annonce la réforme des retraites, hein, elle devait être faite pendant le premier quinquennat, il y a eu une levée de bouclier sur la fameuse retraite à point. À l'époque, tout le monde au niveau du gouvernement disait non, mais la retraite à point, c'est ce qu'il y a de mieux. La retraite à point. Vous vous souvenez de ça? Tout le monde a oublié. Plus personne n'en parle. Hein? Le gouvernement disait la retraite à point, c'est le must. Donc l'idée avait été lancée, puis les ministres disaient en service après-vente, mais vous n'avez pas compris. La retraite à point, c'est le must. C'est ce qu'il faut pour la France. C'est tellement le must que, un, ça a été abandonné et que plus personne n'en parle. Bah, c'était vachement le must. Bon, donc ça a été oublié, mais elle revient. Donc là, le président Macron le dit, hein, il l'a dit notamment hier assez clairement, on va faire la réforme des retraites. Comprenez, ou on va repousser l'âge légal de départ à la retraite, ou on va allonger la durée de cotisation, et ou alors un petit peu des deux. Hein, voilà. Donc on va la faire, on va peut-être la faire très vite, il faut qu'elle soit mise en place avant juin 2023. Donc ça, c'est les annonces d'hier. Et en même temps, le président Macron dit il va falloir qu'on fasse aussi une nouvelle loi, sans doute, sur la fin de vie, ce qu'on appelle parfois l'euthanasie. Et du coup, le Canard Enchaîné, ça les fait rigoler. Et il mixe ces deux informations et ça donne réforme des retraites et convention sur la fin de vie, le joyeux projet de Macron, travailler plus pour mourir mieux. Excellent. Retraite, fin de vie. Au moment où on nous dit qu'on va travailler un petit peu plus longtemps, on nous dit mais on va vous arranger la fin de vie. Ah, c'est un hasard. Voilà. mais ça fait rire le canard. Et on a quelques dessins assez rigolos là-dessus. Et puis un autre petit article sur Adrien Quatennens, bon, qui n'est pas en une, mais qui a été repris par pas mal de médias ce matin. Voilà, une information que je vous donnerai ou pas, que vous avez ou pas. Vous me direz si vous voulez qu'on en parle. Je ne sais pas si c'est important. D'autant que Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise, et son épouse ont fait un communiqué là-dessus. Bon, je vous donnerai l'info de façon un peu brute de décoffrage. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce que bon, voilà. Je vous donnerai l'info. C'est dans le canard enchaîné. En tout cas, certains ont la ref ou pas ? Vous voyez de quoi je veux dire ou pas ? Non, je vois que vous n'êtes peut-être pas la ref. Ok. Bon, des hommages et heureusement, et c'est tant mieux sur Jean-Luc Godard. Hein. Alors, on a vécu une séquence un peu étrange hier. On a commencé le stream, je commence à vous faire le sommaire, à lire les journaux, et puis à un moment, quelqu'un me dit dans le chat, Jean-Luc Godard est mort. Voilà. Info, Libération. Bon, et là, je fais ce que tout journaliste fait, c'est-à-dire que il va vérifier l'info. Et on passe du temps. Parce qu'on se rend compte ensemble, vous étiez plein hier, on se rend compte ensemble que l'information n'est donnée que par Libération. Et que la source, c'est, on a appris par des proches de Jean-Luc Godard que donc le grand cinéaste était mort. Et donc bah, on fait un truc pédagogie un peu en direct. Je vous dis bah voilà comment on prend une info comme ça qui vient de tomber, qui n'a qu'une source, qui n'a lancé que par un média, parce que quelle que soit la qualité du média, et Libération est un média de qualité, eh bien il faut jamais se précipiter. Voilà, il faut vérifier l'info. Donc on prend du temps, on attend. Libération est longtemps le seul média à donner cette info. Ils avaient cette info en exclu en quelque sorte quoi. Et puis d'autres médias l'ont donné, mais en reprenant l'info de Libé et en disant, selon nos confrères de Libération, eh bien Jean-Luc Godard est mort. Donc on a laissé passer le temps, on s'est pas précipité pour rendre hommage à Godard. On s'est dit, attendons, parce que parfois le journaliste qui est un humain se trompe, et il arrive parfois qu'on annonce la mort de gens qui sont pas morts. C'est arrivé. Donc on prend le temps, et puis genre 2 heures plus tard ou 1h30 plus tard, eh bien Le Monde, le quotidien Le Monde, confirme cette information: Jean-Luc Godard est mort. Le Monde a également obtenu cette information, et là je me dis, Libération, Le Monde, bon, connaissant ces deux médias, je me dis ok, on peut y aller. Et on lit un premier papier qui revient sur la vie de Godard, un très long papier dans Le Monde d'ailleurs, et à ce moment là je fais un pari et je vous dis eh bien non, je pense que sauf énorme actu, demain Libération consacrera sa une à Jean-Luc Godard, et ce sera une très belle une. Je me suis pas trop trompé. Je réponds à deux questions, deux commentaires. Yoshiro Bibrunet, si l'info était fausse ou qu'il n'était pas sûr, il n'aurait pas pris le risque de la sortir. Tu parles de Libération. L'information est une matière sensible, évolutive, mouvante. Le journaliste est un homme, une femme, faillible, qui essaie de faire de son mieux mais qui se trompe parfois, comme dans tous les métiers, y compris les plus sérieux. Les médecins se trompent, ça arrive. Et donc, un journaliste peut être certain d'avoir une info, voilà, certain de la qualité de sa source, et se tromper, faire une erreur de jugement à un moment donné. Donc un média peut être persuadé d'avoir une info, c'est pour ça qu'il la sort, et se tromper quand même. Et puis après il y a des médias qui sont moins sérieux, qui sortent tout un tas d'infos, voilà, et ça ils n'ont un peu rien à foutre de savoir si c'est avéré ou pas. Voilà, il y a des médias qui sont réputés pour ça. Si vous traînez un peu dans ce milieu, si vous consommez beaucoup les médias, vous en rendrez compte par vous-même, hein, avec des médias qui balance plein d'infos, la moitié c'est faux, l'autre moitié c'est approximatif. Et puis il y a des médias qui sont considérés parfois comme sérieux et puis qui font un autre truc, c'est-à-dire qu'ils sont dans la course à la rapidité. Voilà. Il s'agit de donner l'info avant les autres, avant la concurrence, plus vite, voilà, parce que c'est un peu leur fonds de commerce. Et ils prennent des risques. Ils prennent des risques par rapport à la vérification. Pour aller plus vite, il faut moins vérifier, c'est pas compliqué. Hein. Et donc ils prennent des risques par rapport à ça. Et c'est des médias qui peuvent vous dire à 8 heures une info, et à 8h15, ou une autre info, voilà, c'est-à-dire quasiment la négation de la première, sans forcément s'excuser, sans forcément dire qu'il y a un quart d'heure et donner une autre info. Voilà. Ou alors ça va être une info un petit peu différente. Voilà. Il y a des médias, que je ne vais pas citer, mais qui sont très facilement identifiables, qui sont dans la course à la rapidité, et qui vont donner une info à 8h, et puis à 8h15, qui ne vont plus la donner parce qu'en fait ils ont un doute. À 8h45, elle va revenir sous une autre forme. À 9h30, en fait, sera radicalement différente. Et puis à un moment, ils vont arrêter. Parce qu'en fait, non, c'était une mauvaise piste. Je vais pas balancer, mais ça existe. Donc, tous les médias ne se valent pas. Attention, plus on va vite, plus on peut se tromper. C'est pour ça que je kiffe la presse écrite. Voilà. Donc hier, je vous ai fait le pari qu'il y aurait une belle une de Libération sur Jean-Luc Godard. C'est mieux que ça. Vous comptez avec moi? Ok, vous comptez, hein. Libération, Jean-Luc Godard. Forever Godard. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, six pages, sept pages, huit pages, neuf pages, dix pages, onze pages, douze pages, treize pages, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Hop, 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 Brigitte Bardot, moitié à poil là. Eh oh, Twitch. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pages. 28 pages. C'est un Libération entièrement consacré à Jean-Luc Godard. Entièrement consacré. Alors, si vous voulez, il y a Dudux Avocate qui est un petit peu sceptique, mais qui va lire 30 pages sur Godard? Déjà, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. C'est... Le mec, c'est 28 pages, bordel. Eh ben, les passionnés de cinéma, les passionnés de Jean-Luc Godard. 28 pages, voilà. Donc ça, c'est beau. Donc si vous voulez lire un truc sur Godard ce matin, c'est dans Libération. Et Libération qui sort un deuxième libé ce matin consacré au reste de l'actualité. Voilà. Bon, j'ai pas pu tout lire, hein, c'est pas possible. Voilà. Je vous lirai aussi, alors je vous lirai pas tout libé, je vous lirai un petit bout de l'édito dans libé, mais du coup... si vous vous intéressez à Godard, bah vous achèterez Libération pour acheter l'UMA aussi avec un joli dossier. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, c'est moins, hein, cinq pages, voilà. Avec un petit extrait de l'article. Hier, j'étais un peu décontenancé, un peu dépourvu parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de cinéma. Oui, je sais un peu, j'ai entendu parler de la Nouvelle Vague. Oui, ça m'est arrivé il y a longtemps de voir un ou deux films de Godard, À bout de souffle, Pierrot le Fou, voilà, peut-être un autre. Comment s'appelle le film avec Brigitte Bardot là, inspiré du livre de Moravia là. Avec Piccoli, je crois. Comment? Le mépris, je pense que je l'ai vu. Voilà, mais c'était il y a longtemps et puis je suis pas du tout un spécialiste de cinéma et voilà, je pense pas que j'ai forcément trouvé les bons mots hier moi sur Jean-Luc Godard et je m'en excuse malgré mes tentatives. Donc là avec les chouettes articles dans Libé et l'UMA ce matin, je pense qu'on va s'approcher un peu plus de qui était Godard. Et Dieu sait si c'est complexe, parce que c'est une œuvre qui est assez compliquée à appréhender. Voici l'autre Libération. Vous avez un Libé spécial Godard, et puis un Libération avec un peu moins de pages ce matin. Combien de pages? 16 pages sur le reste de l'actualité quand même, voilà. Alors là, c'est une couverture consacrée à la question de la fin de vie et à l'euthanasie, hein, voilà, c'est un débat qui rebondit en France, avec un clin d'œil justement encore à Godard, puisque ici ça reprend avec les couleurs, avec les lettres, un film de Godard, je ne suis pas sûr de moi, mais qui pourrait être Pierrot le Fou. Donc on parlera de ça, c'est très important. Il y a plusieurs nouveautés ce débat sur la fin de vie, sur l'accompagnement de la fin de vie, sur ce qu'on appelle parfois l'euthanasie, l'aide assistée à la fin de vie, l'aide au suicide, tout ça, d'accord. Il y a deux infos. Alors d'abord, il y a le Comité national d'éthique qui, pour la première fois dans notre pays, dit qu'il n'est plus opposé à une aide médicale à mourir, ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé en France. Donc c'est un tournant, donc ça c'est une grande première. Et puis vous avez la deuxième info. Ah, c'est l'affiche d'À bout de souffle. Certains me disent c'est Pierrot le Fou. Bon, en tout cas c'est Godard. La deuxième info, c'est qu'Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture d'un débat citoyen sur la question. Deux infos, donc on voit que ça bouge. La vie et la mort, bon, Libération, ils ne peuvent pas... La machine me fait rire. S'empêcher de faire des jeux de mots, même sur les sujets les plus tragiques, et ils ont bien raison. La vie et la mort, puisque l'avis du Comité national d'éthique là-dessus, et puis l'avis demain que va rendre la Convention citoyenne pour le climat. Libé donne un peu son avis, nous donne les infos, nous donne un petit peu son avis aussi là-dessus, voilà, en disant oui, il faut que la loi évolue là-dessus. On a commencé à en parler hier ensemble, parce qu'en fait, il y a des cas, je vous la fais simple pour ceux qui ne pourront pas rester avec nous, mais les gens qui appellent à une évolution de la législation actuelle, la loi Claeys-Leonetti, il y a quelques années, sur la fin de vie et l'euthanasie, c'est les gens qui disent la loi aujourd'hui, elle est incomplète. Elle est imparfaite parce que elle autorise l'accompagnement, la fin de vie, pour les personnes en phase terminale qui souffrent et qui vont mourir dans quelques jours, dans la semaine. Aujourd'hui, c'est ce que permet la loi. Or, il y a les gens qui se battent pour une loi plus large disent, oui, mais il y a des gens qui sont dans un tel état de souffrance en raison de maladie qui vont pas forcément mourir là dans la semaine, hein, mais qui demandent quand même à être accompagnés vers la fin, parce que c'est intenable. Voilà. Et bon, vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler d'histoire, peut-être que même vous avez eu des proches dans votre entourage qui ont été concernés par ça. Donc, les partisans de l'évolution de la loi disent qu'il faut une nouvelle loi, ou de manière extrêmement encadrée, bien sûr, ça c'est possible. Libération est plutôt pour. Le Figaro, voilà, plutôt contre. Voilà. Le Figaro le dit pas clairement, mais le Figaro donne assez clairement la parole à des gens qui sont, notamment des responsables politiques, qui sont, il y a Marine Le Pen, il y a Bruno Retailleau chez LR, qui sont opposés à cette évolution de la loi. Pourquoi ? On va se pencher sur ces arguments, on va essayer de comprendre ce débat parce qu'il est très important. Voilà. Et moi, je crois que les gens qui sont opposés à l'évolution de la loi sont de bonne foi. Hein. Ils sont convaincus que c'est une mauvaise chose. Alors, on va écouter les arguments des deux côtés, puis on va essayer de se faire chacun son opinion, bien sûr. Laissez-moi voir en deux messages. Ah, j'ai un message envoyé à Pierre. Excusez-moi. Pierre, virgule, l'ordinateur dont j'ai besoin est avec Solal qui fait dodo, point. Est-ce que ça va si je t'envoie tout ça vers 12h30, point interrogation. Un truc que j'avais oublié. Voilà. Donc on lira Libération et le Figaro pour nous éclairer là-dessus. Quoi. L'opinion est pas sur cette réforme-là, mais sur une autre, hein, que a priori le président Macron veut faire vite. Alors je dis bien a priori, parce que là aussi on va être prudent. Pendant le premier quinquennat, je remercie tous les subs, j'avais pas vu les subs à l'instant. Pendant le premier quinquennat, le président Macron avait annoncé, promis une réforme des retraites qui n'a pas pu se faire. Hein. La réforme de la retraite à points à l'époque, elle est relancée cette réforme. Alors, on ne parle plus de réforme de. C'est plus la retraite à points, dans ce deuxième quinquennat, avec là, hier, le président Macron qui a dit clairement on va faire cette réforme de retraite, et en plus on va la faire vite. L'idée, c'est que ce soit prêt avant juin 2023. Voilà. Peut-être même avec une loi dans le projet de financement de la sécurité sociale qui arrive à l'automne. Vous voyez, c'est très très imminent. Ce que nous dit l'opinion, c'est que, ok, ça c'est l'objectif, mais c'est chaud, quoi. Opposition des syndicats, opposition de l'opposition, est-ce que ce truc peut passer ? Voilà, est-ce que politiquement, le président Macron a la capacité, avec sa majorité qui n'est que relative à l'Assemblée, de faire passer une réforme aussi ambitieuse. Ce sont les questions que pose l'opinion. Un autre truc important aujourd'hui, vous allez me dire, il y a que des trucs importants, bah oui quand même. On est quelques milliards, donc il se passe des trucs importants sur notre planète à peu près tous les jours. Et c'est ce que les journaux essaient de nous raconter. Il y a, là c'est ce matin, c'est, peut-être même que c'est en ce moment, la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, qui prononce son discours de l'État, discours sur l'État de l'Union. Alors c'est drôle parce que c'est le pendant du discours sur l'État de l'Union du président américain pour les États-Unis. Et nous, on a aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais chaque année, on a un discours sur l'État de l'Union européenne par le président ou la présidente de la Commission européenne. On a ça pas depuis très longtemps, depuis quelques années. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui le discours de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sur un truc super important. Sur la question énergétique, sur la crise énergétique, sur le risque de pénurie cet hiver, sur les prix de fou des carburants, du gaz, de l'électricité, tout ça. Donc là, il y a un dossier très très clair dans la croix sur les enjeux. Voilà. Tiens, voilà. Il y a Kuro Onana qui nous dit que le discours de Ursula von der Leyen vient de se terminer là-dessus. Et il y a mon ami Jean Massier qui fait un stream spécial là-dessus. Voilà. Que je salue, Jean. Et puis on finira avec l'équipe. Voilà, que j'ai lu, que j'ai parcouru rapidement ce matin, mais il y a des trucs intéressants, surtout au niveau des rencontres à venir. Bon, bah, l'OM, hélas, a échoué contre l'Eintracht Francfort hier, c'est deux matchs, deux défaites, toujours la même histoire, se désole un peu l'équipe. Le PSG a gagné son premier match, c'était contre Tel Aviv, même si c'était chaud. Là, on a un déplacement a priori plus facile contre le Maccabi Haïfa, on est en Israël, d'où le jeu de mots de l'équipe Messi, qui est au sommet de sa forme, Lionel Messi, en terre promise, Messi, terre promise, Israël, ok, d'accord. Très bien, on est passé de Messi à Messi, bien joué. Oui, ils ont gagné contre la Juve, bah oui, je l'ai dit. Ça a été chaud, mais ils ont gagné. Oui, j'ai dit autre chose ? J'ai dit quoi ? J'ai dit, quelle équipe ? J'ai dit comme connerie encore. Contre quel... Mais non, pas Tel Aviv. J'ai dit Tel Aviv. J'ai dit qu'ils avaient gagné contre Tel Aviv. Non, mais j'ai dit avant qu'ils avaient gagné contre la Juve. Je l'ai dit. Ah, oh, je suis naze. Ouais, je manque de café. Alors, on reprend du café, ça me... Donc, ils ont gagné contre la Juve. Heureusement que vous êtes là. C'était un peu chaud, mais ils ont gagné. Donc, match un peu plus facile, a priori, en déplacement contre Maccabi Haïfa. Donc, on est en Israël. C'est ce soir, c'est à 21h. Très bonne question de la carotte sévère. Est-ce qu'ils y vont en char à voile? Excellent, excellent. Un petit match de basket. Les quarts de finale des championnats d'Europe, s'il vous plaît. France-Italie, 17h15. C'est jouable, mais on arrive à un sacré niveau. Bon, l'OM, deux matchs de défaite. Là, vous avez un autre match hier, Bayern, qui a fait un joli coup contre Barcelone. C'était le choc de cette deuxième journée de phase de groupe. Bayern, 2-0 contre le Barça, quand même. Voilà, puis vous avez un petit peu tous les résultats. Puis le match du PSG, ce soir, c'est vrai qu'on a un PSG qui est plutôt en forme, là, à la fois en championnat et en Coupe d'Europe. Pourvu que ça dure ! Pourvu que ça dure ! Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Bon, après, il y a tout. Il y a plein d'autres trucs, mais pour l'essentiel du sport, ce sera ça. Voilà. Pas mal, hein ? Arrêtez de taper sur l'OM, bordel. C'est fou, ça. Le bashing de l'OM. Hey, ils font un très bon début de championnat, l'OM. Oui ou non? Alors. Ah ah. Audience de questions pour un champion. Tous les matins, à 9h et des brouettes, mon producteur m'envoie les audiences de questions pour un champion. Hier, on était leader. Toute chaîne confondue. Eh ouais, un jeu qui a un tiers de siècle et qui est numéro 1 en ce moment, tous les soirs devant la concurrence. Eh ouais, je me la raconte, mais tellement... Suspense, est-ce qu'on est premier, est-ce qu'on est leader devant TF1, France 2, M6, France 5, eh ben ouais. Cool, ok, 13,3% d'audience. Hier, on était un peu au-delà de 14%. Ok, c'est cool. Les audiences, on s'en fiche quand elles sont bonnes. Quand elles sont mauvaises, après, ça sent un peu le sapin, donc c'est mieux qu'elles soient bonnes. On se dit, ok, on va pas trop m'embêter avec ça. Regardez ce jeu d'ailleurs, c'est très sympa. Beuhen. Merci pour... Ouais, ça fait une heure que j'ai pas remercié les subs. Allez, let's go. On remercie les subs et puis on vous lit tous les articles qu'il y a derrière moi. Il y a Totoni qui dit, ça sent le sapin, ça veut dire quoi? Bah, ça sent le sapin... J'ai pas la ref absolue de cette blague, mais je pense que ça sent le sapin... Ça sent le sapin à une époque où on devait faire les cercueils peut-être en sapin. Voilà. Ah bah si, c'est Yo Askan qui confirme. Donc le bois du cercueil en sapin. Donc quand tu dis ça sent le sapin, c'est que ça sent plutôt le cercueil. Donc ça sent la fin. Comme le dit Eden Blaster dans le chat, ça sent pas bon quoi. Voilà. Donc voilà. Oui, comme le dit Ilana, fan account avec beaucoup de poésie et de subtilité. Ça pue du cul. Voilà. Donc les audiences. En vrai, on s'en fiche quand elles sont bonnes, voilà. Hein. On s'habitue même. On vous félicite rarement pour les bonnes audiences. Par contre, quand elles deviennent pas bonnes, eh ben, on commence à vous en parler là. Donc, c'est très très bien là. Question pour un champion, leader tous les soirs. Comme ça, tout va bien. Allez, c'est parti pour les subs. Elgruto07, merci pour le deuxième mois. Team GA, merci pour le 13e mois. Bonne journée à toi. Beuhen, remerci et la bise. Aussi à toi, Kiwi08020, merci pour le Prime. Lilou Lal, merci pour le 10e mois, heureusement que vous êtes là. Yano System, merci pour le 2e mois d'abonnement. Mathéus9, habitué. 11 mois d'abonnement, comment vas-tu? Arnaud Migoliath, et je vous avais déjà remercié tout à l'heure. Ah bah c'est deux fois. Voilà. Ça sent le sapin, c'est bientôt Noël. Ouais, aussi. Nous aussi. En Lodard n'a rien écouté de ce que je disais. En Lodard. Donc déjà, tu vas aller au coin. Voilà. Donc tu vas, je ne sais pas si dans ta chambre ou au McDo, au restaurant, ou dans la rue, tu trouves un coin, tu vas au coin, en Lodard. En Lodard, écrit mot pour mot, Samuel Etienne. Personnellement, tu tires vraiment une satisfaction à écraser les autres chaînes. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je viens de t'expliquer, enfin. Mais enfin. Maintenant, tu t'enlèves les, je sais pas, les bouts de... Qu'est-ce que tu t'es mis dans les oreilles? Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre dans les oreilles? Le truc vert là qui ressemble à une espèce d'inflorescence là, comme du chou-fleur mais vert là, le brocoli. Alors maintenant tu t'enlèves les brocolis que tu t'es mis dans les oreilles. Voilà, tu restes au coin d'ailleurs. Qu'est-ce que je viens de dire? On s'en fout les audiences. Sauf que si les audiences sont mauvaises, le truc il s'arrête quoi. Voilà. Et moi je kiffe ce jeu. C'est le plus beau jeu de culture générale et c'est le plus dur du PAF. Voilà. Ce truc il a 34 ans. J'ai une responsabilité de ouf. C'est-à-dire que moi je veux le faire durer jusqu'à la nuit des temps ce jeu. Parce que les téléspectateurs, ils sont vachement attachés à mort. et il n'y a pas l'équivalent. Et donc, moi, l'objectif, c'est de le filer à quelqu'un d'autre, le jeu, après. À un autre garçon ou une autre fille. Pour que ben, les gens ne soient pas orphelins de ce jeu qui est super cool. Donc, une bonne audience, c'est la garantie de ça. Parce que tu n'arrêtes pas un programme de qualité, qui a une bonne image, qui fait une bonne audience. Tu ne l'arrêtes pas. Donc, le truc, il se continue. C'est le signe de ça. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, on n'a rien à foutre. Voilà. Mais si l'audience, elle baisse, et ben, le truc, il disparaît. Et après, il y a des gens qui sont tristes. Ok ? Allez, tu peux sortir du coin maintenant. Il y a d'autres questions comme ça ? C'est fou, ça. Bordel. Écraser les autres. C'est pas trop la philosophie, ça. C'est fou, ça. Et étoile. Hein ? Vous pensez à étoile ? Oui, les gens qui me parlent d'étoile. Hein ? Imaginez, le jeu s'arrête. Imaginez, le jeu s'arrête. Imaginez, le jeu... Voilà. Il y a Aimai Yono qui dit « Écrase-moi, Samuel. » Imaginez, le jeu s'arrête. Imaginez, parce que, bah voilà, comme disait notre ami qui est au coin, là, « Oui, tu vas arrêter d'écraser les autres avec des bonnes audiences, là ?» Donc, on arrête de s'occuper de ça, donc on y va cool et tout. Les audiences baissent, voilà. On arrête le truc. Voilà. Et Étoile. Et Étoile qui va bientôt s'inscrire à Question pour un champion. Hein, entre là, peut-être dans une semaine, peut-être dans un an, peut-être très bientôt, dans 10 ans, peut-être que dans... Voilà, peut-être qu'il sera chaud dans 30 ans. Peut-être que dans 50 ans, Étoile, il va passer les sélections. Voilà, et bam, il sera chaud, il sera prêt, il sera entraîné, il sera lancé. Hein, voilà. Hein, peut-être, voilà. Vous pensez à Étoile, hein, parce que, voilà, c'est une préparation. Hein, il est sur un truc, il est sur une dynamique, là. Et ça va le faire, c'est imminent, là, entre maintenant et dans 50 ans. Donc, il faut attendre, quoi. Après, quand Étoile sera passé, on verra, quoi. Ok. Je vous kiffe.
Allez.
Dernier pseudo. Master Robot. Merci. Oh, que des jolis pseudos. Master Robot, merci pour le Prime. El Grouto, je te remercie tout à l'heure. Je sais pas. Mais j'aime bien ton pseudo, je le relis. Ah. Oh, on regarde d'Asie. Salut, Quignon de Pain. Mes journaux sont tombés. Vous bougez pas. J'ai roulé sur le Figaro. Le dites pas. Je suis en train de rouler sur le Figaro. Du coup, tout est dans le désordre. Le canard. Le canard, Godard. L'euthanasie, j'ai que des bonnes nouvelles ce matin. Je vous parle de gens morts ou de gens qui veulent mourir. Ok. Ok, voilà, j'ai tout remis en ordre. Ah, allez, je l'ai encore en deux messages parce qu'on est très rapide ce matin. Et puis on débute cette revue de presse, la matinée Étienne. Prêt ? Le Canard Enchaîné, une parution hebdomadaire, on est d'accord ? Oui ! Le Canard Enchaîné sort tous les mercredis. Allez, les dernières nouvelles sur Twitch. Est-ce qu'on m'a envoyé un DM très important ? Voilà. Non. Hein ? Ok, on y va. Let's go. Vous êtes prêts ? Merci Mayanne pour ce gentil troisième mois d'abonnement. C'est mercredi, quelqu'un me disait à l'instant, est-ce que le Canard Enchaîné, c'est bien hebdomadaire ? Oui. Oui. Merci Knaki pour le gentil message. Alors, peut-être allumer la bonne caméra. Voilà. Alors le mercredi c'est Canard Enchaîné, c'est un des petits plaisirs du mercredi. Alors il faut du nom, hein. Il faut du temps pour lire le Canard Enchaîné, ça prend du temps, il faut des heures. Hein. Canard Enchaîné, c'est des très grandes pages, voilà, vous voyez, ça rentre pas. C'est des très grandes pages, c'est écrit tout petit, donc ça veut dire que dans quelques mois je pourrai plus le lire. Hein. J'aurai des petites lunettes là que je poserai sur le bout du nez, donc c'est écrit tout petit. Même les dessins ils sont tout petits d'ailleurs, parce qu'ils, oh là, c'est une page du Canard, c'est bourré. Hein. De petites brèves, d'articles, de reportages, de dessins, c'est écrit tout serré, tout petit. Donc c'est du boulot, hein. C'est des heures de lecture, donc on va pas lire le Canard Enchaîné. Je vais juste vous montrer la une, parce qu'on va pas avoir le temps. Et là je trouve que c'est une petite masterclass de la part du Canard Enchaîné, parce qu'ils ont pris deux actus, moi j'avais pas fait le lien, et ils ont remarqué que l'exécutif, le président Macron, annonçait en même temps deux réformes. Un début de réflexion sur la fin de vie et l'euthanasie en France, avec peut-être une nouvelle loi demain, et la réforme des retraites qui va arriver. Alors du coup, le Canard se marre. Réforme des retraites, d'un côté, convention sur la fin de vie, boum, télescopage, le joyeux projet de Macron, travailler plus pour mourir mieux. C'est vrai que quand il pense, en fait, annoncer deux réformes, l'une qui te dit tu vas travailler plus longtemps, et l'autre qui te dit mais t'inquiète pas, si t'es pas en trop bon état, tu vas pouvoir mourir. C'est vrai que quand il pense, c'est malin. Voilà, bon, le canard enchaîné s'amuse avec ça, du coup ça donne quelques dessins. Ici, dessin de Lefred Touron, c'est même pas la peine de voir la signature, tu retrouves le style. Donc c'est manifestement Elisabeth Borne ici qui s'adresse au président Macron, repousser l'âge de la retraite, faciliter la fin de vie. Et le président Macron dit, eh oui, en même temps, le fameux en même temps. Exactement. Voilà. Autre dessin, Lefred Touron ici. Suggestion pour le Conseil national de la refondation, vous savez, c'est le CNR là, dont on n'a pas encore trop compris comment ça allait fonctionner pour réfléchir aux grands sujets et aux grands débats qui se posent à notre pays. Alors on a qui ? On a Macron, je pense, et son épouse. Le président disant à sa femme, je suis épaté par la sympathie qu'inspire aux Français la reine d'Angleterre. Est-ce que tu voudrais pas rétablir la monarchie ? Ah oui, c'est Elisabeth II. Ok. C'est tout ce qu'il y a sur, comme dessin sur, sur la retraite ? Oh, il y en a sûrement à l'intérieur. Allez, allons à la recherche des dessins sur la réforme des retraites. Bon, ça, c'est Marine Le Pen. Ça, c'est le nucléaire. Il y a pour tout le monde. Hein. Ok. À la dernière page, j'ai toujours des articles sympas. Ouais, on parle même de la guerre en Ukraine. Canard enchaîné, on peut rire de tout, à condition de d'être bien accompagné, bien sûr. Alors, il y a une info qui a été beaucoup reprise dans les médias ce matin, bon, qu'il faut prendre avec, avec des pincettes, voilà, parce que c'est une info sur laquelle il y a des interrogations, il y a des questions. Voilà. C'est sur Adrien Quatennens, qui est le député LFI, la France Insoumise, hein, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est... Pourquoi je vous dis ça dans le canard ? Parce que c'est le canard enchaîné qui sort cette information. Information qui s'est retrouvée un peu sur toutes les chaînes d'infos ce matin. Voilà. Information qu'il faut prendre avec un certain recul parce qu'il y a beaucoup de questions dessus. Nico Manga dit on s'en fout. Bah, peut-être pas ceux qui s'intéressent aux questions des violences faites aux femmes puisqu'en fait c'est le sujet quand même. Comme dit 66 Abigail, le dit prudence, exactement. Voilà. Il y a Abelois qui dit BFM hier qui parlait de violence à propos de ça sous aucune info. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être prudent, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous lis l'article du canard. Quatennens se prend une main courante sur la tête. Encore un problème délicat à gérer pour les insoumis. Écrit le canard, le député du Nord, coordinateur national du mouvement LFI, Adrien Quatennens, est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales. Le soupçonné, sa compagne a très récemment déposé une main courante, donc l'info c'est ça, main courante, pas plainte, main courante auprès des services de police du Nord. Déjà, la mise en cause par plusieurs femmes d'un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, le président de la commission des finances à l'Assemblée avait mis le feu au sein de LFI. Adrien est l'un de ceux qui incarnent l'avenir du parti, l'après Mélenchon, s'inquiète un parlementaire, cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre. Interrogé par le canard, qui a fait un peu son travail, le parquet de Lille a choisi de ne pas s'exprimer sur cette affaire pour l'instant. Donc pas de réaction des autorités judiciaires. Quant à l'avocate d'Adrien Quatennens, elle a précisé, elle a parlé au canard, le 13 septembre au matin, donc c'était hier matin, qu'il s'agissait d'une main courante, déposée à la suite d'une dispute, dans le but de se prémunir, donc de la part de l'épouse d'Adrien Quatennens, en cas de litige autour de ce divorce, puisque ces deux personnes sont en train de divorcer. Un communiqué commun, publié quelques heures plus tard par Adrien Quatennens et son épouse, reprenait les termes de l'avocate. Céline Quatennens y affirmait aussi qu'elle avait précisé aux policiers ne vouloir ni porter plainte, ni suite judiciaire à la dite main courante. Quelqu'un à l'instant dans le chat me demande quelle est la différence entre une plainte et une main courante. Bah, Céline Quatennens a précisé aux policiers qu'elle ne voulait aucune suite judiciaire, ni porter plainte. Mais elle a fait une main courante. Et Lost in Translation dit une main courante, c'est une plainte. Non. Eh ben non, justement. Est-ce qu'il y a des spécialistes de droit, et je sais qu'il y en a, des avocats dans le chat qui peuvent nous expliquer la différence entre une main courante et une plainte ? Voilà. Voilà pour les infos qu'on a pour l'instant. Je vous lis un petit peu sur cette histoire de main courante. Après, je vois des commentaires intéressants là-dessus. L'Access dit, on est plutôt curieux de voir comment LFI va réagir considérant sa politique concernant ce sujet. Valdren écrit, ça aurait été un membre du gouvernement, tout le monde aurait été à fond sur l'info. Voilà. Alors, sur l'histoire de la main courante, est-ce que quelqu'un qui touche un peu en droit peut nous expliquer ? Abélois. On parle de violence, mais on ne sait pas. Elle peut avoir déposé une main courante pour laisser trace d'une date. Par exemple, s'il quitte le domicile conjugal. Voilà. Écrivain nous explique en citant les guillemets, donc je pense que c'est l'extrait d'un texte officiel. Vous pouvez déposer une main courante à la police nationale ou à la gendarmerie si vous souhaitez déclarer des faits que vous avez subis ou d'où vous avez été témoin sans porter plainte. Il est possible de déposer une main courante si vous n'êtes pas certain que les faits en question constituent une infraction. Alosia, pourquoi une main courante si tout va bien ? Personne n'indique que tout allait bien. En fait, là où il faut être prudent, c'est-à-dire qu'à un moment dans l'actualité, il faut admettre qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est en gros, est-ce qu'il y a violence conjugale ? Hein ? Certains médias se sont empressés de parler d'un soupçon de violence conjugale. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a violence conjugale, a priori de la part de M. Quatennens ? Aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a, on ne sait pas s'il n'y a pas. Voilà. Alosia, pourquoi une main courante si tout va bien ? Personnes qui sont en instance de divorce, donc ça ne va pas. Hein, ça se passe rarement, formidablement bien, c'est assez rare quand même. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, comme le dit Lingard, une main courante vise à informer les autorités d'un fait. Quel est ce fait ? On ne le sait pas. Et à un moment, il faut admettre qu'on ne sait pas. Oh, Vincent Vinel ! Vincent, mon ami qui a une super chaîne consacrée à la musique, au chant. Vincent qui a une voix merveilleuse, qui a une énergie de fou, qui est sur Twitch. Vous tapez Vincent Vinel. Et puis, il faut que je t'appelle, Vincent. Ça fait des mois pour qu'on parle de musique. Mais je pense à toi. Voilà. My Little Trip précise aussi. Passons un petit peu de temps là-dessus. On va sortir plus avant de cet échange. Contrairement à une plainte, le but de la main courante n'est pas d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre. Ça peut être utile dans le cadre d'un futur procès. C'est très intéressant ce que dit My Little Trip. Rappelons qu'on a deux personnes qui sont en instance de divorce. Peut-être que ça va se terminer effectivement devant un juge et que peut-être que les éléments de cette main courante pourront intervenir dans le règlement de ce conflit conjugal. Ok, voilà, nous voilà un peu éclairés. L'info augmentée, je vous ai posé une question. Vous êtes nombreux à avoir apporté une réponse qui est assez claire. Voilà. Lié à l'EFRE, une main courante, c'est pour que ce soit enregistré. Ça paraît logique dans le cadre d'un divorce, qui peut inclure des divergences de vue, bien sûr. Voilà. Alors, il y a Twista, le pelucheux, qui nous propose une autre définition, mais que je mets sous réserve, qui est la main courante. Est-ce que c'est pas le fait de décrocher la main de son bras et de la laisser courir dans le commissariat ? C'est une piste, mais pour le coup, je ne sais pas. Non. Bon, à un moment, il faut avouer aussi sur une actualité qu'on ne sait pas. Voilà. Mais comme l'information a été reprise par toutes les télés ce matin, avec plus ou moins de prudence, et que vous allez peut-être en entendre parler à un moment de votre journée, je ne voulais pas non plus que vous disiez à un moment dans la journée « Ah, mais c'est bizarre, Samuel Etienne nous a montré le canard enchaîné ce matin, mais pourtant c'est le canard qui a sorti ça, mais il ne nous a pas du tout parlé de ça, alors est-ce que Samuel Etienne nous cacherait des informations ? Est-ce qu'il ne veut pas tout nous dire ? Est-ce que c'est parce que c'est ce parti ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les infos dont vous allez entendre parler quelque part dans la journée à un moment, vous allez voir ça sur votre téléphone, sur je ne sais quel écran où quelqu'un va vous en parler, ben voilà, je vous dis d'où ça vient, vous savez où c'est, vous savez à peu près les infos, voilà, vous avez des éléments d'information, mais je vous sachiez que ici on ne passe aucune info sous silence, bien sûr. Voilà. C'est aussi le pourquoi de ma démarche. Hop ! À suivre ! Je peux me moucher ? Je suis un peu rhumé en ce moment. On va parler un peu de Jean-Luc Godard, de teasing avant le mouchage. On coupe pas le micro, on est entre nous, hein, on y va. Allez, c'est parti, c'est dégueulasse. Pourquoi Twitch c'est mieux que la télé ? T'as envie de te moucher, tu te mouches. Hein ? Fais comme chez toi, comme dit 66 Abigail. Merci Vincent pour ton sub, je t'ai pas remercié. Merci Lord Raph pour ton 10e mois. Et let's go, hier, j'adore avoir raison. Hier, je vous disais, en lisant les premières réactions sur la mort de cet immense cinéaste qui est Jean-Luc Godard, je disais, normalement demain, une de Libération là-dessus, magnifique une, très belle photo, joli titre. Bah, Libération, c'est les champions. Voilà, pour les jolies unes. Alors, singulièrement concernant les mecs qui sont morts. Voilà, les mecs ou les filles d'ailleurs. Donc, ils sont très forts, c'est une spécialité un peu étrange. Ils sont très forts dans le décès, en fait, Libé. Disons les termes. Libé, ils sont très forts sur les décès. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand vous avez une personnalité qui décède, voilà, une grande figure internationale ou un artiste, ou voilà, le lendemain, c'est dans Libé, ils en font des caisses et c'est bien foutu. Voilà, c'est un peu les. Voilà. Ils auraient pas. Voilà. Libé serait une profession, il serait. J'espère qu'il n'y a pas de journaliste de Libé dans le chat, je kiffe Libé. Libé serait une profession, il serait un peu croque-mort, quoi. Voilà. Ouais, numéro 1 dans la nécrologie, ouais, comme le dit Idriss, c'est un peu mieux. Les experts de la mort. Voilà. Et donc, bah voilà, ça n'échappe pas à la règle. Jolie, jolie une, belle photo, le cigarillo qui était un des éléments. Constitutif de l'image de Godard avec ses lunettes qui étaient souvent des lunettes sombres, d'ailleurs on voyait pas toujours ses yeux. C'est Godard, quoi, personnage Godard, forever Godard. Et hier, bon ben, j'étais un peu emprunté, embêté, parce que je suis pas un spécialiste de cinéma et de Godard, et je suis pas sûr de vous en avoir bien parlé. Alors je m'étais dit, bah demain on aura des beaux articles et je vous en lis quelques lignes pour éclairer un petit peu ce grand bonhomme qui était Godard. Cinéaste total, waouh, aux mille vies, à l'œuvre aussi prolifique que protéiforme, incarnation des contradictions d'un art en recherche permanente, Jean-Luc Godard laisse une carrière parsemée de chefs-d'œuvre et d'incompréhension qu'il a érigé de son vivant en légende, et il est mort mardi à 91 ans. Je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces 8 petites lignes sont parfaites, parce que là il y a un dossier de 28 pages dans Libération consacré à Jean-Luc Godard, et là vous avez, en quelques lignes, vous avez l'essentiel. Voilà. Il n'y a pas tout, hein, mais il y a l'essentiel de qui il était, et je trouve ça vachement bien fait. Cinéaste, total. Ouais, espèce de passion absolue pour le cinéma, quoi. Il faisait du cinéma comme il respirait. À l'œuvre aussi prolifique, il tournait énormément, avec très peu de budget, il faisait des trucs voilà, sur un plan. Voilà. Il tournait, quoi, non-stop. Prolifique, que protéiforme, il a fait plein de choses différentes, des films extrêmement différents. Incarnation des contradictions d'un art en recherche permanente, c'était aussi un intellectuel, un philosophe du cinéma. Il s'interrogeait en permanence sur ce qu'était le cinéma, ce que devait être le cinéma, quel est le message qu'était le cinéma. Il s'interrogeait beaucoup là-dessus. Est-ce que le cinéma devait être le reflet de la vie, pas le reflet de la vie? Comment le cinéma devait parler de la vie, la responsabilité du cinéma. Bon, c'était, il se posait plein de questions. Art en recherche permanente. Jean-Luc Godard laisse une carrière parsemée de chefs-d'œuvre. Certains ont les titres en tête, Pierrot le Fou, on a parlé du Mépris tout à l'heure, Le Premier 1960, bien sûr, Belmondo par terre en train de mourir, c'est dégueulasse, à bout de souffle, merci. Voilà. Et d'incompréhension, parce que même certains grands fans de Godard au fil de sa carrière, à un moment, disaient « Fou là, je comprends plus rien, Godard, c'est compliqué. » Et il est mort mardi à 91 ans. Quelques lignes seulement qui résume un petit peu. Et puis évidemment, bah si ça vous intéresse, et bah vous avez 28 pages à lire dans Libé aujourd'hui. Et je vous lis juste ce petit édito, ce petit extrait de Luc Chessel, qui en parle très bien, je trouve, le dernier utopiste. Le plus grand cinéaste vivant est mort. Bon, là vous êtes sur un fan. Le plus grand cinéaste vivant est mort. Jean-Luc Godard était... Il restera à jamais un peu plus que ça. Il était même plus que le plus grand cinéaste vivant. Artiste, philosophe, écrivain, révolutionnaire, pitié, vigie de son siècle et d'une autre, 1930-2022. Notre contemporain jusqu'au bout, l'homme de son temps, le peintre de la vie moderne, qui a décidé de son départ, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un suicide assisté. Pour Godard, il l'avait souhaité, il l'avait voulu, en Suisse, là où c'est possible. Donc ça télescope l'actualité, puisque le débat sur l'euthanasie et la fin de vie est relancé en France, et donc il vient de choisir de partir, justement. Godard a choisi de partir. Voilà. D'après un communiqué que j'ai lu, il n'était pas particulièrement malade, il était juste, voilà, pour lui, il était au bout, mais il avait décidé de partir. Voilà, il voulait choisir son moment. Alors malade peut-être, mais pas dans la souffrance. C'était pas la douleur qui lui a fait prendre cette décision, ont expliqué ses proches. Donc il a fait le choix, que sa patrie, la Suisse, rend possible, de quitter le monde avant qu'il ne soit trop tard. Exit Godard, qui laisse à leur solitude commune partager celles et ceux qui ont tellement aimé ces films des années 50 à aujourd'hui, parce qu'ils ressemblaient trait pour trait, ce cinéma de Godard, à la vie. Non pas comme sa parfaite imitation docile, au contraire comme explosion de tous ses cadres, révolution de toutes ses formes, renversement de toutes ses valeurs. JLG, Jean-Luc Godard, sous initiale, était devenu, sans l'avoir voulu, le cinéma en personne, bien que personne n'ait jamais fait du cinéma comme lui, parce que Godard était unique. C'est ce qu'il a porté dès le début, à bout de souffle, 1960, premier film manifeste de la nouvelle vague. C'est ce qu'il a porté à chaque coup et de plus en plus à ses limites pour voir. Voilà. Je trouve que c'est bien écrit, le dernier utopiste. Et pour éclairer encore un petit peu Godard, et puis ce sera à vous de lire les journaux et notamment ce dossier de 28 pages en Libération, prenons l'Humanité. Très belle une de l'Humain, la révolution Godard. Elle est belle cette une aussi. Voilà. Lui, il vient de partir. Et là aussi, je vous ai mis quelques lignes de côté. Au milieu d'un grand article de plusieurs pages, signé, je vais citer l'auteur, Magali Geoffrey. À bout de souffle. À bout de souffle, son premier film, on est en 1960, tourné avec un budget étriqué, au jour le jour, à même la rue, avec sa réalité sonore envahissant l'espace consacré à l'image, un film renversant, tant il rompt avec tous les codes de l'époque, c'est une révolution, hein, on est à 8 ans de mai 68. Ce film est renversant tant il rompt avec tous les codes de l'époque. Film étendard, il expérimente la liberté qu'offre cette petite caméra légère Caméflex et la sensation de réel qu'apporte une pellicule ultra sensible qui était d'ordinaire réservée à la photographie. Comme les autres films manifestes qui suivront, il édicte les règles d'une nouvelle grammaire qui privilégie décor, éclairage naturel, absence de maquillage, tournage caméra à l'épaule, montage nerveux, déconstruit plein de ruptures de rythme, d'arrêt sur image, de voix off, de décalage entre image et son. Godard disait vouloir filmer comme le peintre peint ou comme le musicien compose. Il a pulvérisé le système, il a fichu la pagaille dans le cinéma ainsi que l'a fait Picasso dans la peinture. C'est François Truffaut, autre acteur de la Nouvelle Vague, qui disait ça. Et sans doute y a-t-il effectivement quelque chose du génie de Picasso dans ce cinéma qui est un geste faisant jaillir la vie et rendant lumineux le fait que penser, c'est voir et faire voir. Voilà, c'est quelques mots, c'est quelques lignes que je vous ai choisies ce matin dans la presse sur Godard. Évidemment, après, c'est à vous, si ça vous intéresse, d'en lire un peu plus, par exemple dans l'Humain, bon dossier, ou encore dans Libération, que je vous remonte parce qu'il y a les 28 pages, il y a la une, et puis il y a, comme Libération sait le faire, la dernière page. Qu'est-ce que c'est beau, le bruit d'un journal. Entendez ce bruit magnifique de Libé. Regardez comme elle est belle, cette photo. C'est beau, non? On a l'impression qu'il est parti et qu'il nous regarde. Voilà. Loin du tumulte du monde, loin de l'agitation. Peut-être qu'il nous écoute. Peut-être qu'il rigole. Peut-être qu'il est passé à autre chose. Elle est belle cette photo. C'est beau. Allez, je lis un ou deux messages sur Godard. Peut-être que vous avez des messages, des petites choses à nous dire sur ce grand bonhomme. Et on enchaîne. De qui est la photo de Der, mademoiselle Bébé? Elle est créditée, bien sûr, de Richard Dumas. Et la première de Richard Dumas aussi. Photo signée Richard Dumas. Bonne question. On cite les journalistes, il faut citer aussi les photographes. Et Ronan me dit que cette photo a été prise à Libération. Je vous lis. Jugraf, je m'en fiche de Godard. Tu as raison. Enfin, je veux dire, tu as le droit de t'en foutre. On n'est pas obligé de t'intéresser à toutes les actus. Aucun souci. Et moi, j'ai le droit de lire les articles sur Godard, bien sûr. What? Ronan me dit que Godard avait une poussette pour filmer sur les Champs-Élysées comme Samuel Etienne. Il m'a piqué mon idée. C'est ouf, ça. C'est fou. Amandine dit, et pourtant, il ne s'est jamais défini comme cinéaste. Bah, c'est vrai qu'il avait plein de... un discours sur le cinéma qui était passionnant. Je lis un dernier message sur Godard et on enchaîne. Ah, Mademoiselle Bébé précise à Ronan que c'était un caddie et pas une poussette. Donc je reste le premier qui a filmé avec une poussette de bébé. Super. Anna Bananas, habituée de cette chaîne, nous dit « J'ai jamais vu de film de Godard. Si je ne devais en voir qu'un, lequel serait le plus apprécié par une néophyte pas forcément fan de ce genre de cinéma ?» Le cinéma de Godard est un peu compliqué quand même. Je veux dire... Enfin, voilà. On dirait quoi ? On dirait Le Mépris ? On dirait À bout de souffle ? Enfin, tu... Il y a Pinguine qui dit « Moi, j'ai seulement vu À bout de souffle et j'ai kiffé. » On dit À bout de souffle ou on dit Le Mépris ? Il y a School Toilets qui connaît bien son Godard et qui dit « Les gendarmes et les gendarmettes. » Excellent. Non, c'est une blague, bien sûr. À bout de souffle, Pierrot le Fou. Vous êtes plusieurs à conseiller À bout de souffle. Ok. Let's go, alors. Ok. Ok. Allez, on enchaîne. Donc, Libération fait un libé spécial Godard. Et Libération, parce qu'il se moque pas de nous, bah, n'oublie pas que le monde continue de marcher, d'avancer. Et donc, nous propose un deuxième Libération. C'est beau, hein ? Pour le même prix. Voilà. Donc, un deuxième Libération consacré au reste de l'actualité. Avec encore un clin d'œil à Godard, avec ce titre de une qui reprend un peu la maquette de l'affiche d'un de ses films. Fin de vie, un début. Deux infos importantes sur ce débat sur l'euthanasie, sur la fin de vie en France. La première, c'est que le Comité national d'éthique n'est plus opposé à l'aide médicale à mourir dans notre pays. Voilà. Donc ça, c'est un tournant. Et puis, le président Macron qui annonce l'ouverture d'un débat citoyen un petit peu sur le mode du truc sur le climat, la convention citoyenne sur le climat, là, vous vous rappelez ? Eh bien, on va avoir la même chose pour cette question de la fin de vie. Voilà, les infos, vous les retrouvez ici. Jeu de mots de Libé, la vie et la mort, l'avis du Comité national d'éthique, texte rendu hier. Le CCNE a ouvert la voie à un changement législatif autorisant l'aide à mourir sous réserve de conditions strictes. Emmanuel Macron a lui annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur le sujet, je vous le disais à l'instant. On en a parlé déjà hier, mais on va continuer pour bien comprendre de quoi il s'agit. Chris, 3221, merci. Pas de souci pour le retard. Merci pour le 8e mois, Blast. Pardon. Merci pour le Prime, Lord O'Kill. Merci également pour le Prime. Édito, Alexandra Schwarzbrod, progrès. Donc, Libération prend parti. Libé nous dit, oui, ce serait bien. Qu'il y ait une loi là-dessus, une nouvelle loi là-dessus, il faut évoluer. Progrès. Comme un ultime acte de militantisme, Jean-Luc Godard est donc mort en demandant que soit rendue publique sa volonté d'avoir recours au suicide assisté, pratique autorisée en Suisse. Pour lui, c'était une évidence, une question de dignité. Le hasard a voulu qu'au même moment, en France, le Comité consultatif national d'éthique, un an et demi après le début de sa réflexion, déclare ne plus s'opposer à une aide médicale à mourir, considérant même celle-ci comme éthique dans certaines circonstances. C'est une sacrée révolution. Ces deux actualités entremêlées montrent que les mentalités sont en train de bouger sur ce sujet. Ce qui paraissait impensable il y a quelques années encore commence tout doucement à infuser dans les esprits. Les progrès de la médecine et le vieillissement de la population font que les cas de conscience en cas de maladie incurable qu'on ne peut pas guérir et de souffrance deviennent de plus en plus fréquents pour les soignants comme pour les familles. Nous avons tous, écrit Libé, Alexandra Schwarzbrod, tous vécu de près ou de loin la fin de vie insupportable d'un proche et l'envie d'abréger ses souffrances. Et la difficulté parfois d'avoir accès à des structures de soins palliatifs extrêmement sollicitées dans notre pays. Il y a une carence là sur les soins palliatifs, ça c'est autre chose, mais c'est très important, qu'il faut régler. Bien sûr, le sujet n'est pas simple, dit la journaliste, il est même... vertigineux, il est philosophique, il est intime, il est collectif, il est individuel, il ne peut se régler d'un oui ou d'un non. Organiser une convention citoyenne, non pas sur le climat, mais sur la fin de vie cette fois, eh bien, dit Libération, qui pourtant est souvent critique avec le président Macron, est une bonne idée. Libé dit, c'est une bonne idée. À une condition, dit Libé, qu'elle ne soit pas un énième machin conçu pour repousser la moindre évocation ad vitam aeternam. La fin de vie est un sujet trop important pour être utilisé à des fins politiciennes. Nous avons été échaudés par la Convention citoyenne pour le climat, et vous êtes plusieurs à m'en parler ce matin en me disant la Convention citoyenne pour le climat, et le président Macron qui avait promis qu'il reprendrait toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et qu'est-ce qui a été repris que dalle ? Bah oui, donc Libération dit il ne faut pas que ça recommence. Nous avons été échaudés par la Convention citoyenne sur le climat que le chef de l'État avait mise en place à grand renfort de com et dont les conclusions sont restées, pour beaucoup, lettres mortes. Mais Libé dit, le sujet est tellement important, il faut tellement avancer là-dessus que, eh ben, en tout cas, l'intention, elle est bonne. Ok. Ça, c'est l'avis de Libé, qui prend position, qui donne son avis, qui dit qu'il faut effectivement une loi là-dessus. On lira le Figaro qui n'est pas tout à fait d'accord juste derrière. Article d'Éric Favreau sur la question, pour nous éclairer un peu plus. Je pense que c'est sur la première page, ouais. Let's go. Le blocage, donc, vient d'être levé. Et l'événement est de taille. Pour la première fois depuis sa création en 1983, le Comité consultatif national d'éthique ne se montre plus opposé à une aide médicale à mourir. Sous certaines conditions, il la considère même comme éthique. On assiste aujourd'hui à une évolution majeure qui dégage le chemin pour un changement législatif significatif dans les prochains mois. La dernière loi, et je vous en ai beaucoup parlé hier, la loi dite Claeys-Leonetti de 2016, ne répond pas à toutes les situations cliniques de fin de vie, en particulier celles de personnes se trouvant atteintes d'une maladie incurable, qu'on ne peut pas guérir, souffrant fortement, manifestement clairement leur souhait de voir leur existence s'arrêter. Mais voilà, comme leur pronostic vital n'est pas engagé à court terme c'est une semaine. Hein ? Ils ne peuvent bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Hier, on s'est penché là-dessus, il y a une loi actuellement qui accompagne la fin de vie en France. En gros, tu peux avoir accès à ça si tu as une maladie qu'on ne peut pas guérir, si tu souffres énormément, si tu as exprimé le souhait clair de vouloir t'en aller et que tu vas mourir dans quelques jours. Voilà, ça c'est le cadre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ben non, il faut aller plus loin. Il faut permettre à des gens qui ne vont pas mourir dans les prochains jours de choisir si elles le souhaitent. Si elles ont une maladie qui ne peut pas se guérir, si elles souffrent trop, si elles ont fait ce choix, il faut permettre à ces gens de pouvoir partir. Et souvent, les gens, les partisans de cette évolution-là disent de partir dans la dignité. C'est un mot qui revient beaucoup. Bon. Je vous donne certains arguments, et puis vous verrez que d'autres sont opposés à l'évolution de cette loi, et on essaiera de comprendre pourquoi aussi. Libération en parle. Les opposants à toute évolution mettent en avant le fait que, souvent, ce type de demande, donc de vouloir mourir, hein, ne résiste pas à une bonne prise en charge de la personne, et notamment de la douleur. Hein. C'est-à-dire que les partisans du statu quo disent « Mais en fait, il y a un problème sur les soins palliatifs en France. Soins palliatifs, ce n'est pas forcément l'accompagnement vers la mort, c'est aussi c'est prendre en charge la douleur. » Vous savez qu'en France, on ne sait pas encore du côté des médecins et du milieu hospitalier, on ne sait pas encore assez bien prendre en compte la douleur des patients, on vient de très loin. À une époque, on n'avait rien à foutre, et on s'en occupe de plus en plus. Mais il y a encore d'énormes progrès à faire. Donc certains disent, en fait, il ne faut pas faire évoluer la loi, il faut en fait mettre l'accent sur les soins palliatifs et mieux accompagner les gens qui souffrent. Et ces gens disent, et quand on accompagne bien les gens qui souffrent, eh bien, ils ne demandent plus la mort. Enfin, ça, c'est ce que ces gens affirment. D'autres pointent la pauvreté chronique des soins palliatifs en France, voilà, toujours absente dans bien des régions, voire dans tous les EHPAD. En attendant la survenue de ce monde meilleur, le manque est quand même là, criant, recoupant des histoires souvent dramatiques, des patients pouvant aujourd'hui en France connaître des fins de vie à faire honte. À faire honte. D'où l'histoire de mourir, partir dans des conditions dignes. Donc le mot est lâché, écrit Libération, aide médicale à mourir, donc ce serait l'évolution de la loi. De quoi parlons-nous ? Alors, le patient doit être conscient, en état de faire une demande libre, répétée, éclairée, hein, il ne faut pas qu'il soit poussé vers la mort par, disons-le, des gens qui voudraient se débarrasser de lui, quoi, des proches par exemple, qui disent « oui, non, mais c'est bon, papy, il veut partir, hein ?»« Non, papy, non, il ne peut plus parler, là, non, oui, il ne peut plus parler, il ne peut plus trop s'exprimer, mais il nous a dit assez clairement quand même, il veut partir, hein. Et puis non, c'est par rapport à la succession, c'est tout ça, quoi. Hein, voilà. Donc, le patient doit être en état de faire une demande, libre, répétée, éclairée. Il doit souffrir d'une maladie grave et incurable, provoquant des souffrances psychiques ou physiques réfractaires. Il doit voir son pronostic engagé à court terme. Dans ces cas-là, les médecins peuvent l'aider à mourir. Deux cas de figure. Soit la personne est en état de faire ce geste, après prescription médicale. Voilà. Et là, le patient prend une potion létale, prend un médicament. Voilà. Ça, c'est le suicide assisté. Soit le patient n'est pas en état de faire ce geste, ce suicide assisté médicalement, Et là, c'est le médecin qui fait le geste. Et donc là, on parle d'une euthanasie active, voilà, pour reprendre le vocabulaire. Voilà. Dans tous les cas, ça doit faire l'objet, bien sûr, d'une trace écrite et argumentée. Hein. On ne fait pas ça comme ça un lundi entre 8h et 8h10. Et le docteur peut évidemment bien se retirer pour cause d'objection de conscience. Il ne s'agit pas d'obliger les médecins à faire ça, évidemment. Il faut qu'ils puissent être volontaires. Voilà, on en est aujourd'hui. Hein, comme le dit Pastradon, voilà, pas simple pour le médecin de faire ça. Maintenant, les réactions politiques à ce débat, qui suivent donc cet avis rendu par le Comité national d'éthique. Emmanuel Macron a annoncé la veille le lancement dès le mois prochain, donc dans 15 jours, en octobre, d'un grand débat sur cette question autour d'une convention citoyenne avec l'objectif fin 2023 d'un éventuel changement législatif. Dès la publication de cet avis, autre réaction, le Rassemblement national, comme le candidat à la présidence des Républicains Bruno Retailleau, donc extrême droite et droite, eux ont affiché leur opposition à toute opposition législative. On va se pencher sur les arguments dans un instant. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, elle, a pris fait et cause pour une évolution. Donc on voit qu'au niveau des partis politiques, eh bien, les gens ne sont pas d'accord. Je vous lis un petit peu et on lit le Figaro là-dessus, qui donne la parole justement plutôt à des opposants. Voilà. Je vous lis. Bien sûr. Alors là, on touche à l'intime, on touche à des choses très, 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 très dures. Quelqu'un qui écrit dans le chat, cet été, j'étais confronté à ça, ma mère était paralysée, sans réaction suite à un choc sceptique. Et je me suis demandé si je serais prêt à enfreindre la loi et sacrifier mon avenir pour respecter sa volonté si les choses ne devaient pas évoluer. Heureusement, elle va mieux et je n'ai pas eu à faire ce choix. FRMAE écrit dans le chat « Bonjour, mon grand-père a fait un double AVC il y a 12 ans. Paralysé à plus de 90%, en gros, il tourne la tête et ouvre la bouche. Je peux vous assurer que la souffrance psychique est énorme. » Je ne dors pas, je vous lis. Bon, je vois des messages très personnels, très, très émouvants sur les choses que vous avez vécues personnellement avec des proches récemment. Je lis un dernier message là-dessus, puis je prends le Figaro. C'est Mister Zod qui écrit dans le chat. Quand mon oncle est mort euthanasié car son cancer était incurable, le choix a été fait en 2 jours parce qu'il était devenu inconscient. Ses enfants et sa femme auraient préféré qu'il choisisse sa mort comme il le souhaitait quelques mois plus tôt. Voilà. Enfin, c'est le départ dans la dignité. Alors, c'est un débat très compliqué. Moi, j'avoue que je suis au début de ma réflexion sur ce sujet, j'ai pas encore de conviction très très affirmée, et donc Libération met en avant certains arguments, le Figaro en souligne plutôt d'autres, donc ça c'est la une du Figaro qui est consacrée aussi à cette question, estimant que le président Macron vient d'ouvrir la voie à une loi sur l'euthanasie, donc qui reprend les infos que je viens de vous donner, et donne la parole plutôt, pas même quasiment 100%, plutôt aux opposants, voilà, notamment aux responsables politiques qui sont déclarés opposés, voilà, en citant des arguments d'ailleurs qui sont pas inintéressants, hein. La parole à Jean Leonetti, ancien député UMP, qui, à l'initiative de la loi actuelle qui est relative aux droits des malades et à la fin de vie. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi à cette question. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Jean Leonetti ? Hop. Toute loi qui va à l'encontre de la vie humaine pose un problème fondamental existentiel. Hein. Il ne dit pas qu'il faut... Enfin, il dit pas strictement dans cette phrase qu'il est contre, mais il dit en tout cas que ça pose un problème fondamental existentiel, puisque c'est une loi dont la finalité peut être de mettre fin à la vie. Elle pose même, dit-il, un problème de culture et de civilisation. Il dit ça. Et puis, dans ce deuxième article, ici, les réactions politiques de gens qui sont un peu en responsabilité actuellement, notamment dans l'opposition, Marine Le Pen, a de son côté déjà fait savoir sur France 2, récemment, qu'il ne faut pas de loi, donc elle est contre, clairement. Ce sont des sujets qui touchent à l'intime, dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de le prendre, défendant le recours au référendum. Donc sur cette question, il ne faut pas passer par la loi, il ne faut pas passer par l'Assemblée, il faut passer par le référendum, c'est trop important. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Et de poursuivre, donc elle donne son avis. Ce qui est assez courageux d'ailleurs, parce que du coup, elle prend le risque de froisser une partie de son électorat. Je sais pas, j'ai guère de sympathie pour l'extrême droite, j'ai rien à démontrer là-dessus, mais parfois il faut saluer des comportements. Et là, Marine Le Pen, bon, elle ne se réfugie pas derrière une position prudente. Elle dit « Moi, j'y suis opposé, par exemple, à cette évolution de la loi. Nous avons une loi qui est bien faite, dit-elle, la loi Claeys-Leonetti. Il ne faut pas aller au-delà. » Ok, elle prend position. Bon. Et puis, vous avez sur une radio, Bruno Retailleau, qui est le candidat LR à la tête du parti. Il y a une campagne actuellement pour désigner le futur patron, la future patronne de LR, qui dit que la convention citoyenne qui arrive, là, c'est du pipeau. On sait où Emmanuel Macron veut aller. Il a même parlé du modèle belge en la matière. Pour moi, dit Retailleau, l'un des plus mauvais, le sénateur LR estime que la loi doit protéger les plus fragiles. Et il dit « Je ne voudrais pas que demain, des gens qui sont au crépuscule de leur vie et qui se disent être une charge pour leurs proches demandent la mort. » Pardon, j'ai une fin de petit virus qui m'a un peu irrité la gorge. Je relis cette phrase parce qu'elle est importante. « Je ne voudrais pas que demain, des gens au crépuscule de leur vie et qui se disent être une charge pour leurs proches demandent la mort. » Ce serait terrible. Et de conclure, il faut accompagner jusqu'au bout ceux qui vont mourir. On ne met pas suffisamment de moyens dans les soins palliatifs qui sont le point décisif. C'est un argument un peu troublant, alors qu'il ne recouvre pas toutes les situations dont on parle. Hein. Mais on ouvre une porte, voilà, et certains disent, attention, l'intention est louable, elle est noble, elle est positive, mais attention aux conséquences peut-être de cette loi, et notamment à des personnes âgées sur une fin de vie qui à un moment pourraient à tort, je l'espère, se sentir comme un poids pour leurs proches, et qui pourrait, dit Retailleau, demander la mort, la fin de vie, pour ne plus être un poids. Bon, c'est un argument qui n'est pas inintéressant. Voilà. Je vous lis encore un petit peu et on enchaîne. Hein, Gizmo dit, c'est intéressant, il pourrait y avoir une pression sociale à être en fin de vie face à ses proches. Hein. Hein. Parfois, quand je vois le débat sur les retraites... avec les plus jeunes, certains dans le chat qui disent « Ouais, c'est bon, les vieux, arrêtez de nous casser les couilles. Qu'est-ce qu'on paye pour ces boomers et tout ?» Donc, pression sociale sur les vieux. Il n'y a même pas besoin de nouvelles lois. Un ou deux messages et on enchaîne. Bien sûr, tu as raison. Maya a dit, mais il y a un cadre pour veiller à ça. Bah oui, j'espère. Je veux dire que c'est juste une impression sans fondement médical, c'est un faux argument. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On espère que, quelle que soit l'évolution de la loi, tout ça soit extrêmement encadré, bien sûr, pour que on soit sûr que ce soit l'expression de quelqu'un qui est en mesure de faire cette demande, quoi. Bien sûr, et encadré médicalement, bien sûr. Bien sûr. On fait un sondage là-dessus, j'ai pas pensé, mais pourquoi pas. Bon, les termes de ce débat sont assez clairs, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut une évolution de la loi? Voilà. La loi actuelle, donc, elle permet la fin de vie de gens, donc maladie qui ne peut pas se guérir et qui provoque des douleurs, et avec une mort qui arrive dans les jours prochains, et donc on accélère ça, en fait. Ça, c'est la loi d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Permettre à des gens qui sont atteints de maladies qu'on ne peut pas guérir et qui ont des souffrances très fortes, psychologiques, physiques, ou les deux, voilà, de dire, alors que la mort n'est pas imminente, et moi je peux plus, je veux partir. C'est ça, en fait, le débat. Alors, faut-il une évolution de la loi sur la fin de vie? Point d'interrogation. Voilà. Oui. Non. Et le je ne sais pas, qui est plus que jamais peut-être être un choix intéressant, puisque le sujet est quand même éminemment complexe. Faut-il une évolution sur de la loi sur la fin de vie? Oui, non, je ne sais pas, let's go, vous avez 2 minutes. Et bim! On prend un petit sirop pour la gorge, moi. Hein. Plutôt que tousser tout le temps. On va aller le sondage dans un instant, je vais remercier... Non, je vais pas remercier les subs, je les vois pas, je vais remercier dans une seconde. Le sondage me cache les subs. Saloperie de sondage. Ah, on me signale que le président Macron est sur le chat pour voir le résultat. Qu'est-ce qu'on est influent, de folie, de folie. Voici ce que donne le sondage. Bon, ben, votre réponse est assez claire. 83% d'entre vous ce matin, vous êtes pour une évolution de la loi sur la fin de vie. Vous n'êtes que 4% à voter non dans ce sondage, à dire non à cette question. Et je ne sais pas, vous êtes 13%. Voilà. Donc je crois que la réponse à cette question, venant de vous bien sûr, est assez claire. Voilà. Si on est un peu curieux, il y a une info que j'ai pas moi ce matin dans les journaux, c'est qu'est-ce qu'en pensent les Français De mémoire, les Français sont en majorité pour également une évolution de la loi sur la question. C'est ce qu'indiquent les enquêtes d'opinion qui ont été faites ces dernières années. Sondage français fin de vie. Donc là, avec vous, on était à 83% pour. J'ai un sondage IFOP de 2021. Ici, on est carrément sur le site de l'IFOP. ...93% des Français ici souhaitent que la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent. J'ai vu d'autres résultats. J'ai un 82% ici. J'ai un 87% ici. Voilà. Selon le moment où l'enquête est réalisée, selon les termes de la question aussi, bien sûr. Voilà, ça change. Mais vous voyez qu'on est quand même sur une immense majorité. Et ça rejoint le sondage qu'on vient de faire ensemble. Voilà, ok. Très bien. Merci d'avoir passé un petit peu de temps sur ce sujet, qui n'est pas le sujet le plus souriant, mais je pense qu'il est important, parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez déjà été confronté à ça dans votre entourage, ou que vous le soyez un jour, et peut-être que la question, même si on ne le souhaite pas, on se la posera pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Christ, 32-21, merci pour le sub de tout à l'heure. Alors, de la fin de vie, on va passer à quoi? Non, pas à la retraite quand même. Non, Samuel, non, non. Ne me dis pas, Samuel Etienne, que tu vas enchaîner le débat sur la fin de vie à la question des retraites. Mais Samuel, tu es sur Twitch. Ah, je me mets à la place des gens qui ne comprennent rien à Twitch. Mais Samuel, tu es sur Twitch. Tu parles aux jeunes. Mais comment ça? Mais tu es sur Twitch et tu ne parles pas de jeux vidéo? Mais comment ça, Samuel? Tu es sur Twitch et tu n'es pas un gamer? Mais enfin, Samuel. C'est tous les médias qui continuent à dire Twitch égale jeux vidéo. Heureusement que le jeu vidéo est encore présent sur Twitch, parce que c'est un super univers, mais évidemment que c'est un peu plus compliqué. Et puis un gamer, il n'est pas qu'un gamer, quoi. Un gamer est aussi un citoyen qui s'intéresse à plein de choses, quoi. Donc oui, on parle de trucs de vieux ici aussi. Voilà. Et donc, on va parler des retraites. Donc, j'enchaîne. Ouais, donc, j'assume, j'enchaîne. La fin de vie et les retraites. Let's go! Donc, ça nous renvoie là, au canard enchaîné qui se moquait un peu du fait que le président Macron lance à la fois une réforme pour qu'on travaille plus longtemps, voilà, la réforme des retraites, et dans le même temps, peut-être demain une loi pour améliorer la fin de vie. Bon, c'est comme ça. Réforme des retraites, on va y avoir droit. Les retraites vont être réformées, voilà, ça c'est sûr. Ça c'est ce qu'on dit du côté de l'exécutif. Et pas du tout, ça va pas se faire, parce que il faut une majorité, il faut un poids politique que le président Macron n'a pas forcément. Ça c'est ce qu'espèrent très fort les syndicats et une partie de l'opposition. Let's go. Réforme des retraites, la voie étroite de Macron. Emmanuel Macron est repassé à l'offensive lundi sur la réforme des retraites au risque de déclencher une fronde sociale de grande ampleur. Le président a laissé entendre son souhait de réformer les retraites, c'est même sûr, pour une entrée en vigueur à l'été 2023, c'est demain, hein, mais les chemins de passage entre opposition syndicale et politique sont escarpés. C'est ce que je vous disais, lisons cet article de Nathalie Segone. Est-ce qu'il y aura une réforme des retraites à Noël ? Après avoir un temps électriser la campagne présidentielle, le projet avait quasiment disparu du discours présidentiel et ne figure même pas au programme du Conseil national de la refondation de la semaine dernière. À la surprise générale, voilà qu'Emmanuel Macron lui a redonné corps à ce débat, pas plus tard que lundi, et s'est montré pressé de le mettre sur la table. On ne peut plus attendre, a-t-il martelé, notamment suite à un rapport du Conseil d'orientation des retraites dont Bibi vous parlait hier. Encore faut-il avoir les moyens de son ambition ? Ah ah ! Comment Emmanuel Macron peut-il faire passer une réforme jugée explosive alors qu'il a une majorité relative à l'Assemblée et que les oppositions rêvent de l'empêcher de terminer son second mandat, comme le dit un ancien conseiller présidentiel ? Comment il peut réussir ça ? Alors, l'opinion dit, eh bien, il peut faire certains trucs. D'abord, en abandonnant pour de bon le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, Elisabeth Borne avait déjà affirmé en mai que c'était plus un totem, voilà, et Emmanuel Macron semble un petit peu sur cette ligne. Donc, l'opinion dit, déjà, il faut qu'il abandonne cette histoire de retraite à 65 ans, puis en ouvrant une autre option que le recul de l'âge de départ à la retraite, qui serait celle de l'allongement de la durée de cotisation. C'est pas la même chose. S'il y a une réforme à faire, dit par exemple Sacha Houlier, qui est le président Renaissance de la Commission des lois à l'Assemblée, c'est justement non pas le report de l'âge légal de la retraite plus loin, mais l'allongement de la durée de cotisation. Le report de l'âge légal pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt, manque de justice. Pour ceux qui ne sont pas au clair là-dessus, c'est super simple. Le report de l'âge légal à la retraite. Bon, à une époque, c'était 62 ans, on nous parle de 64 ans, de 65 ans. Ça pénalise surtout ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Quelqu'un qui a commencé à travailler tôt, genre à 18 ans, 20 ans ou moins encore, s'il doit attendre 65 ans, voilà la durée, quoi. Voilà la durée de la vie active, quoi. Alors évidemment, pour une personne qui a fait des études supérieures, si l'âge légal devient augmente, c'est pas forcément des conséquences. Un exemple super concret pour que tout le monde comprenne bien. Moi, j'ai eu la chance de faire des études supérieures. J'ai reçu mon petit papier il y a pas longtemps pour dire, bah voilà, monsieur Étienne, aujourd'hui, vous avez le droit de partir à la retraite à... Devinez ce qui était écrit, hein ? Qu'est-ce qui figurait sur mon petit bout de papier là, quel âge, hein, à votre avis? Comme ça, on va bien comprendre le truc. À quel âge? Non, pas 58, non, pas 65, non, 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 pas 72, faut pas déconner, non, pas à 35, à 67. Moi, sur mon papier, c'est marqué que j'ai le droit de partir à la retraite pas avant 67 ans. Parce que j'ai fait des études supérieures jusqu'à 24-25 ans, quoi, 24 ans. 24 ans, voilà. 67 ans. Donc, en gros, les gens qui ont fait des études supérieures, le débat sur le report de l'âge légal à la retraite à 64-65 ans, ben ça les fait doucement rire. De toute façon, ils peuvent pas partir à cet âge-là. Ils partent déjà après. Ils n'ont rien carré. Donc en fait, ça touche surtout les gens qui ont commencé à travailler tôt. Donc c'est un peu l'arnaque, notamment pour les classes populaires. Alors que si on augmente la durée de cotisation, c'est-à-dire qu'il faut cotiser plus longtemps, ben là, tout le monde est en gros est sur le même truc. Et ça veut dire que je vais devoir travailler encore plus longtemps et que je vais être totalement gâteux devant mon stream et vous comprendrez encore moins ce que je raconte. Voilà. Voilà. Donc c'est ça la différence entre âge légal et augmentation de la durée de cotisation. La question, c'est quel choix va faire le gouvernement ? Bon, sachant que moi, 67 ans, je serai déjà totalement aux fraises. Voilà. Donc si c'est plus, bah écoutez, tant pis. Voilà. Je finirai ma vie là devant ce sur ce tapis League of Legends. Voilà, c'est comme ça. Bon, hein, vous ferez un petit clip. Voilà, ce sera mon. Voilà, je partirai comme ça. Vous ferez un petit clip. Voilà, je, pouf. Voilà, avec genre un petit filet de bave là. Voilà. Un petit clip, ça partira sur Twitter. Voilà, on en parlera pendant 2 heures et puis finito quoi. Voilà, exactement. Lisons un petit peu la fin de l'article. J'arrête de raconter des bêtises. Laurent Marcangeli, qui est le président du groupe Horizon à l'Assemblée. Comme Olivier Véran, eux, ils sont réticents à l'augmentation de la durée de cotisation. Alors, eux, ils disent non. Il faut reporter l'âge légal. Hein, le truc dont je vous dis, faut reporter l'âge légal, 64, 65 ans. Donc là, on a vu que ça touchait plutôt les classes populaires, celles qui n'avaient pas trop fait d'études supérieures. Pourquoi ces gens disent ça? Parce que ça rapportera plus de sous à l'État, en fait, que le report de l'âge de cotisation. En fait, vu la masse de gens que ça concerne, si tu reportes l'âge légal, donc si tu dis aux gens bah, vous allez partir à la retraite plus tard pour les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures, et ben en fait ça va rapporter plus de sous à l'État. Et comme l'État nous dit assez clairement, le gouvernement actuel, que cette réforme des retraites, c'est pas tellement pour sauver les retraites. Le conseil d'orientation des retraites dit ouais, le truc est déficitaire, mais le système n'est pas menacé du tout. Allez voir le rapport du conseil d'orientation des retraites, le corps ne dit pas que le truc va cracher, hein. Le corps ne dit absolument pas, et personne ne dit, les gens qui le disent c'est faux, que le système des retraites va cracher. Non, oui, il y a du déficit, mais qui est tout à fait finançable, il suffit de faire des choix, donc c'est tout à fait supportable. Ça coûte des sous, mais le truc va pas cracher. Non, la réforme des retraites, et le gouvernement le dit noir sur blanc, c'est pour... Ah, petit Chabel, je pose la question, pourquoi faire une réforme? Allez voir les mots, les éléments de langage du gouvernement. Aujourd'hui. Mais non, Macron ment pas. Speciori, c'est... Non, mais non. Ah, allez voir les mots de Macron sur la question. Macron dit jamais que le système va cracher. Macron dit, on a besoin d'argent pour réformer l'éducation. On a besoin d'argent pour réformer le système de santé. On a besoin d'argent pour l'hôpital. On a besoin d'argent pour financer la dépendance. Vous savez, le problème des EHPAD, hein, le manque de moyens, le manque des dents, voilà. On a besoin d'argent pour tout ça, et ça les économistes peuvent vous l'expliquer mieux que moi, l'endroit où on peut gagner plein d'argent et on peut faire plein d'économies, alors idéalement pour faire tout ça, en espérant que ça serve à ça, et pas à des trucs moins intéressants, et ben c'est sur la réforme des retraites. C'est tout, le truc c'est ça. Voilà. Là vous avez les éléments, et là vous pouvez vérifier chacun de mes mots, le problème il est là aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est posé. D'ailleurs je pense que l'article l'évoque peut-être un moment. Voilà. Donc alors au final, comment, à quoi on va être croqué, quelle va être la réforme, ça on sait pas. Est-ce que ce sera un report de l'âge légal, est-ce que ce sera un allongement de la durée de cotisation, est-ce que ce sera un petit mix des deux, allez hop là. En tout cas c'est pas fait. Le président va devoir résoudre, pour que ce projet passe, à la fois une équation syndicale et une équation politique. Les partenaires sociaux à ce jour se disent opposés à l'introduction d'une réforme des retraites. Les syndicats sont vent debout, l'opposition, une partie de l'opposition est vent debout. LR pas trop. LR, la droite, ça leur plairait bien, plutôt, ça. Sauf que, politiquement, aider à voter une réforme aussi importante, alors justement que LR, ils sont en campagne pour désigner le futur patron, la future patronne du parti à l'Assemblée, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc, d'où l'hypothèse du 49-3, vous savez, dont on parle de plus en plus dans les rangs de la majorité, pour faire voter le budget qui arrive là, ou encore cette réforme des retraites. Voilà. Intéressant ce sujet, hein. Je vous lis un petit peu là-dessus, on enchaîne. Imagine, tu payes 57% d'impôts dans ton pays et on te demande de faire encore plus d'efforts. Spicher, tu payes 57% d'impôts, toi ? C'est quoi les tranches maximales sur l'impôt sur le revenu en France ? Tranche, imposition. Ça existe, 57%? Ça me paraît beaucoup. Alors, on est sur le compte du service public des impôts. Voilà. Alors, le barème en France. Donc, ça, c'est le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, Speicher, tu nous dis, imagine, tu payes 57% d'impôts dans ton pays et on te demande de faire encore plus d'efforts. Bon, parlons un petit peu des faits, des choses. En France, si tu déclares moins de 10 000 euros de revenus, tu as 0% d'impôts. Si tu déclares de 10 000 à 26 000, tu payes 11% d'impôts sur les sommes comprises entre ça et ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition. Voilà. Si tu dépasses ça, entre 26 000 et 74 000, tu vas payer 30%. Voilà. Pas 30% de toute cette somme, hein. Imaginons que tu as 74 000 euros, tu ne vas pas donner 30% de 74%. Tu vas payer 30% de ce qui est compris entre 26 et 74. Ça, il y a plein de gens qui font l'erreur. Et tu vas payer 11% de ce qui est ça, entre ça et ça, et 0% de ça et ça. Et ça continue. 41% si tu gagnes entre 74 et 160 000 euros par an, d'accord ? Tu ne payes pas 41% de 160 000 euros. Tu payes 41% de tes revenus compris entre 74 et 160. Tu payes 30% ce qui compte entre 26 et 74. Je pense que vous avez compris le système. 45% si tu gagnes plus de 160 000 euros par an, tu vas payer 45% de tout ce que tu vas gagner au-delà de 160 000 euros. Tu ne vas pas payer. Imaginons que tu gagnes 300 000 euros par an, GG à toi, c'est cool. Tu ne vas pas payer 45% de 300 000 euros. Tu vas payer 45% de tout ce qui est au-dessus de 160 000, et pour ce qui est en dessous de 160 000, c'est les tranches qu'on a vues au-dessous. Donc il y a plein de gens qui font l'erreur. Pour revenir à Speicher, imagine que tu payes 57% d'impôts dans ton pays. Alors je ne sais pas de quel pays tu parlais, tu peux parler peut-être pas de la France, et on te demande de faire encore plus d'efforts. Cette tranche à 57% n'existe pas. Peut-être que tu me dis dans le chat actuellement, mais je ne vois pas les messages, que « Ah oui, mais attends, j'ai rajouté l'IFI, parce que l'ISF n'existe plus, et je paye l'IFI en plus, l'impôt sur la fortune immobilière. Okay. Ah oui, mais j'ai rajouté aussi toutes les taxes, parce que j'ai rajouté ma taxe d'habitation. Ah ben non, elle n'existe plus, elle est en train de disparaître. J'ai rajouté ma taxe foncière, et puis j'ai rajouté la TVA que je paye sur mon essence, et sur mon pain, et sur mes jeux vidéo, etc. Et, tout. Et donc, comme je suis très 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 riche, en additionnant tout ça, puis la taxe sur je sais pas quoi encore, et j'arrive à 57%. En vrai, non, c'est impossible. Donc attention quand même, parce qu'on échange ensemble, mais parfois il y a des contre-vérités. En deux clics, tu as toutes les tranches marginales d'imposition qui existent en France. On est là, quoi. Je dis des bêtises ou quoi ? Je dis des bêtises ou quoi ? Tu vois ? Mais après, il y a des gens qui te croient. Il y a Georges qui dit si tu payes 57% d'impôts, c'est que tu peux te le permettre. Ça n'existe pas, 57%. Et c'est 45% de ce que tu gagnes au-delà de 160 000 euros, parce que je le rappelle, il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Voilà. Ah bah voilà, si tu rajoutes la TVA, tout ça, bah après, voilà, tu peux rajouter tout ça, quoi. Bien sûr. Mais la personne parlait bien d'impôts, hein. On est d'accord sur ça ? C'est bien, on parle des retraites et on arrive sur les impôts. C'est normal, c'est normal. Ah, attention. Alors là, après, on part sur autre chose. Il y a Denis qui nous dit, en tant qu'indépendant, entre ce que je facture TTC, mais là, on mélange tout, et ce que je touche, c'est moins 57% de reversé à l'État. Alors là, si tu prends, tu es indépendant, tu fais une facture, c'est pas un revenu, hein. Tu factures une presta à 1000 euros, c'est pas 1000 euros pour toi. Il y a la TVA qui arrive, 20% normalement. 20%. Donc là, évidemment, si tu enlèves les 20%. Après, si tu veux te verser ça en dividende, hop, eh ben, l'État va prendre une partie. Si tu choisis de te verser un salaire, il y a les cotisations sociales qui vont taper dessus. Et puis après, ça va rentrer en ton IR et il y aura l'impôt. Alors évidemment, si tu additionnes tout ça, si tu parles d'une facture d'un indépendant, c'est autre chose. Mais là, la personne parlait d'impôt. Donc à un moment, il faut être précis sur les mots, quoi. Parce que sinon, il y a des gens, et c'était le cas dans le chat, qui finissent par penser qu'il y a des tranches à 57% d'IR en France. Et ça n'existe pas. Donc, hein, la TVA sur une facture d'indépendant, même si on peut avoir un débat sur les charges qui pèsent sur les indépendants et sur les petits entrepreneurs en France. Et ça, c'est un vrai débat. Il se trouve qu'en France, les petites entreprises payent énormément d'impôts et les très grosses, très peu, puisqu'elles ont les moyens fiscaux et légaux, juridiques, d'optimiser fiscalement leur revenu. Et donc, les chiffres sont là. Si vous allez voir le taux d'imposition moyen des sociétés du CAC 40 et le taux d'imposition moyen des PME, c'est juste surréaliste et c'est juste honteux, en fait. C'est-à-dire que les grosses boîtes qui ont plein de thunes payent très peu d'impôts et les petits qui ont peu de revenus et qui bossent à donf sont hyper frappés. Mais c'est un autre débat. Voilà, hein. C'est pas les impôts. C'est autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et en fait, le problème, c'est que... Ah voilà, la Speicher qui échange avec nous, et c'est cool, parce que tu vois, un moment, je te corrige, tu pourrais te mettre en colère et tout, mais non, tu continues à échanger, ça, c'est sympa. Speicher dit, parce que je pense que tu es indépendant, entrepreneur, auto-entrepreneur, ce genre de choses. Je rectifie, pas 57% d'impôts en effet, mais au final, 57% de mes revenus reviennent à l'État. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Voilà, tu vois. Donc, c'est plus la même chose. Et en même temps, c'est un petit peu pas tout à fait ça, parce qu'encore une fois, toi, tu prends 5, tu dis 50% de tes revenus, or, une facture que tu factures à un client, ça n'est pas un revenu, hein. Parce que sur la facture, il y a déjà, en gros, ben, je pense que tout le monde le sait, imaginons, je suis plombier, d'accord? Donc, je facture une presta à un client. Donc, je lui dis, voilà, pour changer votre robinet, changer le truc, machin et tout, c'est 200 balles, ok? 200 balles hors taxes. Moi, c'est ce que je vous facture. Vous voulez bien payer 200 balles? Ok, 200 balles. Ok, en fait, c'est 200 balles hors taxes, mais je vous rajoute la TVA, puisque c'est 20%. Donc, c'est 200 plus, ça va faire 40 euros en plus, c'est ça? 10% de 20 fois 2, ok. Donc, c'est 240 euros. Donc, tu prends 40 euros, tu demandes 40 euros de TVA en plus par rapport à la presta que tu as décidé hors taxe. Les 40 euros, c'est de la TVA, mais en gros, tu les as rajoutés. Donc, c'est pas, ça n'a jamais été un revenu pour toi. C'est un truc que tu as rajouté, que tu vas collecter pour l'État et que tu reverses après. Donc, quand tu dis 57% de mes revenus, sans doute en prenant l'ensemble de tes factures qui sont peut-être en TTC et pas hors taxe, c'est beaucoup. À moins que tu parles hors taxe, non, c'est un autre débat. Mais de toute façon, on est d'accord. C'est un autre sujet, mais on est d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un pays, franchement, dans un pays où les entreprises qui ont de l'argent, les grosses entreprises, celles du CAC 40 ou les très grosses entreprises, quoi, qui sont pas forcément dans le CAC, c'est 40 entreprises, c'est que dalle, qu'elles échappent quasiment à l'impôt, en tout cas qu'elles payent tellement moins d'impôts que le petit plombier dont je parlais là. Voilà. Parce que le petit plombier, il n'a pas les accompagnements avocats, conseillers fiscaux et financiers pour échapper à l'impôt par un truc légal qui s'appelle l'optimisation fiscale. Voilà. Mais c'est voilà, ça ne va pas, quoi. Évidemment que ça ne va pas. On est d'accord. C'est un autre sujet. Mais on est d'accord. C'est important de parler de tout ça. Paie-toi en dividende et le problème est réglé. Ouais, les dividendes, ils sont taxés aussi. Hein. Taxés aussi. Merci Scorly. Je fais ce que je peux avec mes petites connaissances à moi. Hein. Si je vous remercie d'ailleurs vous, hein, puisqu'on parle de sous, je vais vous remercier pour les subs. Alors les subs, il y a une partie qui part à Twitch, une partie qui part à l'État aussi. Scorly, merci pour le 6e mois d'abonnement et pour le gentil message. Des fakeateurs officiels est avec nous. Allez voir son travail sur YouTube et sur Twitch. Super travail de debunk. C'est un passionné. Merci pour le 10e mois. On enchaîne?
Avec quoi?
Ah, que des sujets sérieux ce matin. Ah, il y a les gens qui arrivent du stream de Jean Massier. C'était intéressant, Jean. Je sais que vous êtes penché sur le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui était très important. Oh, d'ailleurs, on va aller voir. Parce que, transition parfaite. Au moment où on me dit, tiens, j'arrive du stream de Jean, on est justement sur la une de la Croix, sur ce discours très attendu aujourd'hui, qui vient de se passer, donc. Un beau discours, me dit Beginner. Sur l'état de l'Union européenne avec des choses assez attendues sur la question de l'énergie et de la crise de l'énergie. Voilà. Merci Ellie pour l'abonnement que tu offres à la commune. Donc, on va aller voir sur Internet si on trouve un premier article sur ces déclarations. En tout cas, c'est à la une de la Croix. Énergie, l'Europe sous tension. C'est l'enjeu de mots. Énergie sous tension. Les mesures pour faire face à la crise énergétique, c'est concernant, hein, puisque vous allez voir que dans les prochaines semaines, nos factures de gaz et d'électricité vont augmenter en France. Je ne sais plus de combien. J'ai entendu. Quoi, 10, 20%, 20%, j'ai entendu. C'est chaud, quoi. Enfin, ça, voilà, c'est concernant. Donc, il y avait cette question énergétique qui était au cœur du discours sur l'état de l'Union européenne, prononcé là, ce matin, par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Allons voir tout de suite qu'a dit Ursula von der Leyen sur ces questions. Qu'est-ce qu'elle a annoncé?
Ursula
von der Leyen, let's go. Hop, un petit actu. Hop. Alors, trouvons une source un peu carrée, un peu sérieuse. Petit article du Monde, il y a 19 minutes. Et merci à Jean d'avoir couvert ça sur sa chaîne ce matin. Ça, c'est du super boulot sur Twitch. Alors, elle devait parler de l'Ukraine aussi. Donc, elle va à Kiev aujourd'hui. Ok. Donc déjà, elle va en Ukraine aujourd'hui. Ok. Attendez. Moi, je cherche un dossier sur Ursula. Ah, ok. Donc, elle parle beaucoup d'Ukraine, là. Ok. Ah, bah, c'est, non, c'est une page sur l'Ukraine. Ok, c'est pour ça, c'est normal. Ok. Donc, elle a beaucoup parlé de l'Ukraine. Une guerre contre notre avenir. Poutine échouera, a-t-elle dit. Ce sont l'Ukraine et l'Europe qui l'emporteront. Elle devait parler de l'Ukraine, c'est important aussi. Ok. Ah, l'essentiel des annonces d'Ursula von der Leyen sur 20 minutes. Ok, j'accepte. Alors, Moscou, l'heure n'est pas à l'apaisement, on a bien compris, au vu des propos qu'on vient de lire. Ah, on y est, réforme du marché de l'électricité et plafonnement des super-profits. Alors, Ursula von der Leyen vient d'annoncer que l'Union européenne allait engager une réforme complète en profondeur de son marché de l'électricité, où les prix se sont envolés dans le sillage des cours du gaz. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un truc que dénonce la France depuis très longtemps. Les prix de l'électricité en Europe sont corrélés au prix du gaz. Au nom d'une certaine idée de la solidarité européenne, le problème, c'est que du coup, vous payez, on paye plus cher notre électricité en France qu'on devrait le payer parce que c'est corrélé sur les prix du gaz européen. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et la France voulait sortir de ça. A priori, on est en train de se diriger vers ça. La conception actuelle du marché de l'électricité ne rend plus justice aux consommateurs. Ils devraient récolter les fruits des énergies renouvelables à bas coût, c'est exactement ce que... Oh ! Oh ! C'est ce que je dis. Il faut donc découpler les prix de l'électricité de l'influence dominante du gaz. Oh ! Je m'applaudis. Voilà. Ok, donc on va vers ça. Très bien. Bon, très bien. C'est pas tout. Elle s'est aussi dit a priori favorable à la taxation des super profits de certaines branches, notamment les entreprises qui profitent de la crise énergétique actuellement. Ok. Pour financer justement les aides aux consommateurs. Bon, ok. Bon, là, mais les annonces sont pas très, très concrètes là-dessus, je trouve. Je m'attendais à des trucs plus cash. Voilà. Article de France Info. Ah, c'est plus précis. Ursula von der Leyen proposerait un plafonnement des super profits qui rapporterait 140 milliards d'euros. Quelle heure il est ça? Bah, faut que je vous laisse à 12h30. J'ai un déj avec ma meilleure amie. On est sur le live de France Info et je cherche le passage sur les super profits. Là, c'est la réforme du marché de l'électricité. Voilà. C'est bien ce que je pensais. C'était l'annonce la plus attendue du jour. Oui, je la cherche moi aussi. Ne cherchez pas le mot taxe ou impôt dans la proposition de von der Leyen sur le plafonnement des super profits. Il a fallu convaincre tous les pays européens du bien fondé de la proposition, y compris de la France. Donc, le mot de super profit n'est pas prononcé. Le mot de taxe ou impôt n'est pas prononcé. Qu'est-ce qui est dit? Elle propose de plafonner les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût et une contribution de crise des producteurs d'énergie fossile. Voilà, pour dégager 140 milliards d'euros. Ah ouais, quand même. Voilà. Il est difficile d'accepter que certains profitent de la guerre et fassent des méga bénéfices. On n'est pas loin des super profits quand même, sur le dos des citoyens. Voilà. C'est intéressant parce que la France a plutôt dit par la voix du gouvernement qu'il ne voulait pas taxer les super profits, par exemple de Total. Le truc est en train de revenir par l'Europe quand même. Voilà. Donc c'est pas inintéressant. Je pense qu'on lira des trucs dans les journaux demain à ce propos. Voilà. Et là donc vous avez le dossier de la Croix sur cette question, mais qui était avant la déclaration de von der Leyen, bien sûr. Petit Chabelge, merci beaucoup pour le prime. Qu'est-ce que ça disait? Est-ce que ça disait des choses qu'on ne s'est pas dites? Ouais, ça met un petit peu dans le contexte en fait, c'est intéressant. Y aura-t-il un nationalisme énergétique en Europe cet hiver, à l'image du repli vaccinal observé pendant la pandémie? La question sera au cœur du grand oral annuel de la présidente de la Commission européenne, qu'elle doit effectuer ce matin, donc on l'a vu là. Pour son troisième discours sur l'état de l'Union, c'est un petit peu comme le discours sur l'état de l'Union du président américain, la chef de l'exécutif va dévoiler des mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Bon ça, ok. L'institution est sous pression, l'inflation a fait naître des mouvements de contestation. En Espagne, en Italie, en Allemagne, Bruxelles veut à tout prix éviter un déchaînement de colère façon gilet jaune. Les 27 se rejoignent sur l'idée de réduire la consommation d'énergie sur leur sol, hein, des économies, mais pas sur l'étendue de l'effort. Par exemple, vous avez des États membres qui doivent composer avec une industrie importante, l'Allemagne par exemple, qui veut maintenir son niveau de production et donc quelque part l'emploi et aussi le PIB du pays, quoi. Il y aura les équilibres sociaux qui sont très délicats à préserver. Ça, c'est un économiste qui dit ça, qui explique que les restrictions, ça c'est important. Les restrictions ne seront acceptables que si elles sont socialement justes, car elles frapperont d'abord les entreprises les plus fragiles et les personnes les plus pauvres. Il sera plus difficile d'accepter des coupures d'énergie en Normandie si Paris garde ses illuminations de Noël, ou que la société du Ralex ferme ses portes face à l'impossibilité de produire son verre à un coût acceptable si Deco, par exemple, continue d'allumer ses panneaux publicitaires. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Rien n'est encore gagné concernant les amortisseurs sociaux qui pourraient être posés à l'échelle européenne, hein, pour que les plus fragiles, citoyens ou entreprises, ne souffrent pas trop. La Commission propose de mettre en place une contribution temporaire et exceptionnelle de solidarité issue des profits colossaux générés par les producteurs d'énergie au profit des plus vulnérables. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Il y a Yannick Jadot, par exemple, le député européen écologiste, qui se félicite et qui dit « Voir Ursula von der Leyen et la Commission soutenir la taxation des super-profits, c'est un changement de pied historique sur la question de la fiscalité en Europe. » Pas mal ? Vous avez noté que j'ai même pas fait de pause café ce matin ? C'est fou, ça. Bon. J'ai été assez rapide. Ça veut dire qu'on pourra, on pourra peut-être continuer à papoter un peu après. Puisque j'arrive à mon dernier journal. Voilà. Ce matin, bon, j'ai un déj avec mon meilleur ami tout à l'heure, mais je suis dans les clous. Bon, même j'ai 2-3 trucs à bosser. Ah oui, il faut que je vous dise d'ailleurs. Donc dans les streams hors revue de presse à venir, vendredi, l'hebdo Étienne. D'ailleurs, j'attends une photo d'ailleurs d'un de mes invités pour pouvoir vous faire le communiqué que j'ai toujours pas. Oh, c'est fou ça. C'est fou ça. J'attends la photo. Donc je pense que d'ici la fin de journée je vous annonce les invités de l'hebdo Étienne, vendredi, ne ratez pas, c'est sympa, quatrième numéro de l'hebdo Étienne, quatre invités, moi je suis pas invité, je suis chez moi, trois invités journalistes ou passionnés d'actu qui reviennent sur l'actualité de la semaine, hein, ça c'est cool. Donc ça c'est vendredi 20h, 20h, 23h, voilà. On va revenir sur quelques-uns d'une des principales actus de la semaine. Je pense que la question de la fin de vie, par exemple, on va en parler. Ça, c'est vendredi, voilà, avec Joe à la réalisation aux manettes. Vendredi soir. Jeudi prochain, je vous en dis pas plus. Un stream, j'en ai parlé nulle part encore. Un stream exceptionnel autour du sport. Un stream de 4 heures autour du sport. Il y a une grande rencontre. Voilà. Organisé par l'équipe, par France Télévisions, par Radio France, sur le sport de demain, une réflexion sur le sport de demain, avec plein de grands champions, plein de grands athlètes. Voilà. Et je vais me mettre dans un coin avec mon petit équipement et je vais vous choper des invités, des grands sportifs de premier plan. Jeudi, l'horaire, c'est pas moi qui l'ai choisi, ça correspond à cette journée de réflexion, on est sur du 10h-14h. 10h-14h. Voilà. Et je vous amènerai des grands champions, tous les sports, hein, tous les sports. Voilà, on parlera des Jeux Olympiques. Voilà. C'est pas jeudi là, hein, c'est jeudi de la semaine prochaine, dans 10 jours. Voilà. Je vous en dirai plus dès que c'est. Voilà. Faut que je bosse un peu là-dessus. Voilà. Et puis bientôt un stream dans un musée, voilà, dans une ville en région. Et puis ça pourrait être tout pour les surprises ou pas ? Ah, puis des invités, bien. Voilà. Tadam ! Donc ça, donc faut que je bosse sur tout ça en plus du reste. Donc je vous montre les derniers résultats sportifs. On va finir avec ça. L'équipe donc fait sa une sur non pas le match de l'OM hier soir. Il aura une toute petite place l'OM. Oh, encore une défaite, bordel. Eintracht Francfort s'impose sur la pelouse de l'OM 1-0. Deux matchs en poule en Ligue des Champions pour les Marseillais. Ils sont pas sympas l'équipe. Toujours la même histoire. C'est pas cool. Bon, voilà. Par contre, victoire du PSG face à la Juve. La Juventus Turin lors du premier match. Deuxième match ce soir pour les Parisiens. Déplacement sur la pelouse en Israël du Maccabi Haïfa. Messi en terre promise. Messi en terre promise. Excellent. Lionel Messi qui est en forme actuellement. Donc ici, c'est pas du tout du foot, c'est du basket parce qu'il y a un match très important. 17h15, vous arrêtez tout ce que vous faites. et vous allez voir ce match. Quart de finale pour la France contre l'Italie, championnat d'Europe, ça va être un beau match. On souhaite le meilleur aux Bleus. Hein. L'équipe semble dire que c'est prenable. Voilà. Oh, regardez comme ils sont méchants. Déjà mal barrés, les Marseillais en Ligue des Champions. Voilà, ça c'est l'équipe. Voilà. Certains me disent c'est pas de la faute de l'équipe si l'OM est nul. Eh, Zanodox, un petit peu de charité chrétienne quand même pour hein, c'est fou ça. Il y avait un choc hier en Ligue des Champions, c'était Bayern Barcelone. Eh ben c'est le Bayern qui a pris le meilleur sur le Barça, 2-0. Voilà. Liverpool Amsterdam 2-1. Le match du PSG, il est là, étiré l'été, voilà. Bon début de championnat en France pour le PSG, et puis bon début aussi de Ligue des Champions, notamment grâce à un monsieur Messi qui revient à son meilleur niveau, en tout cas bien meilleur que la saison passée, voilà. Pas mal de papiers assez intéressants, et puis c'est à peu près tout. Après c'est la suite du procès Mendy, on en a parlé, le procès Laporte, et oui, parfois le sport confine à la justice aussi. Ok, qu'est-ce qu'il dit Boubka? Ok. Et puis un portrait de Jean-Luc Godard parce qu'il était passionné de tennis. Là, c'est Jean-Luc Godard qui joue au tennis. C'est mignon, non? Voilà. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'était un petit stream ce matin. Oh, ma petite Sam, dis donc. Mais bon, j'ai été droit au but. Droit au but. Comme l'OM aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié l'horoscope. Horoscope! Ben oui, j'ai oublié l'horoscope. Ah ben c'est Sandrine qui a gagné. Ah ben c'est Sandrine. Ah, les scorpions. Les nouveaux, les nouvelles, quand je dis le mot horoscope ici, en général c'est au début, mais aujourd'hui je ne l'ai pas dit, pourquoi? Parce que j'ai pas lu le Parisien. Ça vous a pas échappé? J'ai pas lu le Parisien. J'ai lu le Parisien. Mais il arrive que dans un journal, il n'y a rien qui m'intéresse. Non pas qu'il n'y ait pas des choses intéressantes, mais que moi, avec ma petite subjectivité, eh bien j'ai rien trouvé intéressant. Donc j'ai rien trouvé de passionnant dans le Parisien. Il y avait en une interview du nouveau patron du groupe Orpea, vous savez, celui qui a eu des soucis, là, le groupe de maison de retraite d'EHPAD. Suite à la sortie d'un livre qui dénonçait les conditions de vie, la manière dont étaient traités les résidents dans les EHPAD du groupe Orpea, vous vous rappelez de cette histoire? Donc il y a un nouveau patron qui, bon, en gros l'interview c'est: oh là là, vraiment c'était pas bien avant, hein, et maintenant attention, ça va être bien mieux. Donc je me suis dit ok, bon, je pense que c'est pas la peine de vous lire tout l'article, vous avez compris un peu l'idée. Ça c'est donc j'ai pas lu le Parisien. Par contre je l'ai, le Parisien, au moins pour vous lire l'horoscope. Ah oui, je l'ai balancé là-bas. Attends. Et donc, quand je dis horoscope, le premier, la première qui me donne son signe, ben je lui lis dans le chat. Let's go. Ah, je vous mens pas, hein, c'est l'interview dont je vous parlais. Ce que le nouveau patron d'Orpea va changer. Ici, on ment pas. On raconte que la vérité. Enfin, on essaie. Parfois, on se trompe. Hein. C'est humain. Allez. Scorpion. Still loving you. Pardon. Cœur. Votre partenaire sera l'objet de toutes vos attentions. Bah ah oui, j'espère. Attention de ne pas l'étouffer. Ouais. Bah oui. Pas parce qu'on a parlé de la fin de vie qu'il faut étouffer votre... Enfin, c'est fou ça. Il y a des gens qui étouffent leur partenaire, ça. C'est pas une très bonne idée. Réussite. Vous ferez de nouveaux projets plus adaptés à vos compétences. Ça, en langage moins diplomatique, ça veut dire, bon, maintenant, arrêtez d'avoir des ambitions qui sont absolument pas en rapport avec vos capacités. Regardez, ça veut dire ça en fait. Vous ferez de nouveaux projets plus adaptés à vos compétences. En fait, ça c'est une façon gentille de vous dire, en fait vous n'êtes pas super réaliste par rapport à vos capacités. Il faut un peu de downsizing là-dessus, quoi. Je traduis. Hein. Forme, morale en baisse. Bon, après tout ce que je viens de vous dire, c'est normal. Voilà. En vrai, je vous aime les Scorpions. Hein. Voilà. En vrai, je vous aime aussi les Scorpions. Voilà. Voilà. Vous seriez surpris de ce qui peut se jouer au sein de certains couples, Samuel, me dit Aude. Ah non, je veux pas savoir. J'ai passé un très bon moment avec vous ce matin. C'est un petit stream, 2h12. Mais du coup, je vais bosser sur d'autres trucs. Je vous retrouve demain matin sur France Info, même dès 6h sur France 2, hein, pour ceux qui se réveillent un petit peu tôt. 6h30, 8h30 dans la matinale de France Info sur le canal 27 avec une super équipe tous les matins pour analyser l'actualité pour vous. On se retrouve à partir de 9h30 ici dans la matinée Étienne pour lire les journaux ensemble et rigoler et puis être sérieux parfois, ça dépend. Il y a question pour un champion tous les soirs à 17h50 sur France 3, bien sûr. Et puis tous les petits projets dont je vous ai parlé. C'est pas fini, on fait un raid maintenant. Ah, mais j'ai pas mon ordinateur pour aller voir les raids. Bon, je vais m'arranger. On fait un raid maintenant. C'est-à-dire que vous me proposez maintenant dans le chat des noms de streamers et de streameuses, des gens sympas, des gens gentils, des gens qui le méritent, voilà. Et on va aller découvrir leur travail, on va exposer leur travail, on va mettre la lumière sur leur travail, truc de ouf. Donc je vous mets un écran de pause, vous me donnez 2 minutes, bim, petite musique d'attente, et dans 2 minutes, on raid ensemble un des streamers ou une des streameuses que vous m'avez proposé, là, maintenant, tout de suite. Restez, c'est toujours humainement plutôt sympa, à tout de suite. Musique. Pas mal ça. Alors ça propose quoi? J'ai trouvé. C'est pas ce que j'appellerais une petite streameuse parce que elle est connue, parce qu'elle est dans ce milieu depuis un moment. Elle était connue avant Twitch, voilà. J'en dis pas plus. Voilà, elle est en mode très très chill, mais je vois déjà 322 viewers sur sa chaîne. Salut-là parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail, et que c'est quelqu'un de vrai. Voilà, c'est quelqu'un de vrai. Voilà. Et puis dans le monde, tout le monde n'est pas vrai. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Je vous dis pas qui c'est. Alors il est où mon raid? Ah, c'est ici. Voilà. Hop, ça part dans quelques secondes. Alors, vous allez voir, vous allez découvrir. Pour ceux qui connaissent pas, quelqu'un de très sympa. Ok. Bah alors où es-tu? Je ne te trouve pas. Ah, tu es là. Voilà. Voilà. Par un prompt, renfort. Voilà. Ça part dans quelques secondes. Merci encore pour ce matin, je me suis régalé. Merci pour nos échanges. C'est l'info augmentée. Je vous dis des trucs, je vous raconte des trucs, je vous lis des articles. Vous me donnez des infos aussi. On échange, on est chill. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on arrive à en parler. Et c'est ça qui est cool. Soyez heureux. Rendez, si c'est possible, les autres heureux autour de vous. Et ce sera encore plus cool. Et on se retrouve demain matin sur Twitch. Le raid vers Marie Palot. Pardon, quelques secondes. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Gag où justement il est tout dégueulasse, Franck Drebin, et parce que c'est le nom du personnage, et il se penche comme ça, donc il sort du champ de la caméra.